Génération Soccer.
Das Vorspiel. Willkommen auf Génération Soccer.
Vous êtes sur Génération Soccer. Están escuchando a Génération Soccer.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Génération Soccer avec la nouvelle tuerie qu'on vient d'entendre, faite par un de nos membres d'Easy, Cassos et Babos. On remercie Dan qui nous l'a passé pour introduire cette émission ce soir, Dan qui est en off, on le salue. Je vais saluer aussi ceux qui sont avec moi, ce soir il y aura Hugo pour parler des Extraordinario Monégasques.
Effectivement, salut à toutes et à tous.
Il y aura Ronietto, l'homme de Toulouse.
Bonsoir.
Il y aura Roméo, la femme de Marseille.
Bonsoir à tous.
Il y aura Ch'ti.
Bonsoir, bonsoir.
Et il y aura Valentin avec le fil rouge, on peut dire ça, surtout qui va nous lire tous les messages ce soir. On vous oubliez pas de poster ça sur le topic de la radio. Salut Valentin.
Bonsoir à tous.
Donc ce soir on va revenir et bien évidemment sur cette 18e journée de Ligue 1 qui s'est vue finir il y a quelques instants par le match nul. Je le rappelle, si vous n'avez pas suivi le match nul dans le de l'Ouest, on va dire, plus en France. Assez fort pour ça. Alors on a fait le derby Rennes-Nantes, donc qui s'est vu finir sur le score de 0-0 entre les deux équipes. Pour rappel, je vais rappeler un peu les scores de ce soir. Il y a eu Auxerre Paris qui a vu la victoire du Paris Saint-Germain 2-1, le Bordeaux qui s'est imposé 3-1 au Mans, Nancy qui s'est imposé 2-0 face à Grenoble, Sochaux-Caen de partout, Toulouse a battu Saint-Étienne 3-1, Valenciennes s'est imposé contre Monaco 3-1 également, avec un jeu à la barcelonaise qui est en train de jouer en ce moment le fil rouge qui nous sera communiqué et qui sera fait, on va dire, par Ronietto et par Dan qui voit tous deux le match en ce moment. Apparemment des Valenciennois qui ont joué comme les Barcelonais, on pouvait qualifier ça ce soir. Et donc Rennes-Nantes 0 partout. On va commencer peut-être avec toi Lick et le bas du classement, on va dire l'opposition qui pouvait pas faire rêver au départ et finalement qui s'est vu avec 4 buts plus beaux les uns que les autres. On va te laisser présenter ça et bon, on va remonter au fur et à mesure le classement avec Toulouse, on parlera de Paris, de Bordeaux, avec tous ceux qui sont là. Je te laisse Lick pour nous raconter un petit peu cette dure soirée côté monégasque.
Dur, c'est le cas de le dire, parce que bon, Monaco, faut le dire, ils ont été sur une bonne série de victoires, un match nul. Et on avait à Valenciennes qui était l'équipe qui était dernière au classement. Et puis c'était une équipe qui jouait mal, qui jouait pas très bien, qui avait des difficultés, même si son dernier match à Bordeaux était plutôt encourageant. Et ben on en a payé l'effet malheureusement. Première mi-temps, ben ils dominent les débats. On a du mal à produire un jeu. Valenciennes a une bonne occasion à la 20e. Et sans un magnifique Ruffier des grands soirs, il y aurait eu but. Bon, contre le cours du jeu, on marque un but. Et ce n'est pas n'importe quel buteur, c'est Juan Pablo Pino, s'il vous plaît. Juan Pablo Pino, l'excellent. Le joueur qui n'a rien fait depuis qu'il est à Monaco, si ce n'est provoqué un penalty contre le PSG, a marqué un but. Et un beau but. Il a éliminé je ne sais quel défenseur avant de fusiller Pento dans la surface de réparation. Et puis ensuite, commence le calvaire monégasque avec une équipe valencienne qui s'est transformée en FC Barcelone du Nord, quoi. Puisque le jeu déployé était totalement hallucinant pour cette équipe de ce niveau. Alors, à la 30e, Sanchez égalise une frappe sublime des 22 mètres. Avant, et juste après, le but magnifique de Belmadi, joueur que je ne connaissais pas beaucoup et puis que je connais un peu plus.
En 5 minutes, les mecs, ils ont mis des buts qu'on n'a jamais vu peut-être en toute une saison l'année dernière de Ligue 1. C'est quand même assez hallucinant. On a battu des exploits du côté de Valenciennes, quoi. Une équipe comme ça, 19e de Ligue 1, qui met des buts, on va dire, plus extraordinaires et plus hallucinants les uns que les autres. La première frappe du dénommé Sanchez, dont on n'avait jamais entendu parler en Ligue 1, qui évidemment se réveille contre nous. Et là maintenant, c'est au tour de Belmadi, qui, on va dire, un bon joueur, mais qui reste quand même un joueur moyen, on va dire, de Ligue 1, et qui met une reprise de volée extraordinaire aussi. Vas-y, continue, Hugo.
Bon, et puis après, c'est la mi-temps, hein. Et bon, Ricardo a fait un coaching. Et je sais pas ce que toi penses de ce coaching, mais moi, je l'ai trouvé extrêmement mauvais. Il a remplacé... Comment il s'appelle, Nicolas Pokrivac par Yarko Leko. Il a aussi remplacé Rodrigo Pérez par Nimani. Donc Leko et Nimani, c'est pas les meilleurs joueurs, loin de là. Nimani qui a fait un bon début de saison, qui après est tombé dans l'insolence. Et bon, après on en a vu les frais, on a bien repris la deuxième mi-temps, mais après.
Il est tombé dans les fruits et légumes en prenant le melon, Nimani, on va dire ça.
Ah oui, exactement, mais. La sélection avec les espoirs, ils ont été fatales, quoi. C'est dur de dire ça, mais c'est la vérité, quoi. Après, bon, il n'y a qu'une grande place de la part de Valenciennes. Et... Bon, après, c'est fini, ils ont marqué par Pujol, et après, c'est...
On peut dire que c'est quand même une victoire méritée pour Valenciennes, même si ça représente une soirée de rêve où Valenciennes va gagner son équipe à domicile depuis... depuis 3 mois et demi, il me semble, du côté nordiste. Ils ont livré une superbe partition, si on peut dire, et ouais, donc mérite la victoire. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. Les Monégasques, ils n'ont pas montré réellement grand-chose, parce qu'il faut rappeler qu'ils touchent le poteau par Odell vers la 30e minute, et Leko qui se fait expulser à la fin. On va dire qu'ils ont été énormément en réussite ce soir, mais leur victoire est méritée. Une petite réaction par rapport à ça, Ch'ti.
Ouais, donc je voudrais... essayer de comprendre un peu qui sont les responsables. Enfin, je vais utiliser ce terme-là. Apparemment, il y aurait quelques coupables. En tout cas, en défense, il paraît que Simic et Koufré ont été assez transparents. Gosso, c'est peut-être... Et Pérez aussi, il serait passé à côté de son match, je crois.
On va dire que côté défense, on peut pas réellement reprocher à Simic et Adriano leur prestation, parce que pour justement les deux premiers buts qu'ils se prennent, ils y sont pas réellement pour quelque chose. Pourtant, on avait vu le retour de Ruffier, et ça, Hugo, tu pourras me confirmer que on était plutôt confiant après le retour de Ruffier, notre numéro 1.
Ah, exactement, surtout qu'il a prouvé encore une fois que c'est un grand gardien et un futur grand, puisque les arrêts qu'il fait, il faut vraiment les faire, quoi.
Je ne vais pas rejeter la faute sur un joueur en particulier, parce que je n'ai pas trouvé un de réellement mauvais, à part les habituels Modesto qui nous habituent aux performances les plus piètres les unes que les autres. Mais non, on ne va pas rejeter la faute sur un joueur, mais plus sur l'ensemble de l'équipe qui n'a pas su maîtriser une équipe qui est quand même 19e de Ligue 1 chez elle, qui a perdu contre Sochaux, faut pas l'oublier, on va pas reprocher, on va dire, à un joueur d'avoir fait une mauvaise prestation ce soir, parce qu'ils ont tous été en dessous, à part peut-être les 10 premières minutes où Monaco a pas trop mal, on va dire, géré son match et sur sa première occasion a concrétisé le but. Pour finir là-dessus aussi, Ch'ti.
Ouais, donc j'ai encore deux petites questions. Sinon, si c'est pas un joueur en particulier, c'est
ce que tu veux dire.
Et si c'est tout, ou si c'est tout l'ensemble, il n'y a pas quand même un secteur qui a été plus défaillant qu'un autre. Et j'en ai eu aussi une deuxième. Ruffier là encore qui est assez décisif. Est-ce que éventuellement Thuram mériterait d'être revu, parce que lui non plus avait pas été mauvais durant son intérim.
Que Ruffier, il a quand même plus. En fait, c'est deux gardiens sur l'avenir. Ruffier a quand même est quand même numéro 1 cette saison. Thuram est numéro 3, donc faut quand même conserver une certaine hiérarchie. Et Ruffier a quand même prouvé plusieurs bonnes performances depuis qu'il est à ce poste de numéro 1. Derrière, Thuram a fait une rentrée contre Auxerre lors de la blessure. Une rentrée contre Auxerre lors de la blessure de Ruffier, où il avait été pas mal, on va dire. sans être réellement décisif, il a été correct. Et le dernier match où il est à 100, on va dire. Et moi, je m'en réjouissais comme intérim peut-être à la succession de Romain en tant que numéro 2. Mais je pense pas qu'on puisse modifier la hiérarchie. Tu seras d'accord avec moi, Hugo?
Ah oui, tout à fait. Ruffier, depuis le début de saison, pour être clair, il a pas fait une boulette. Toutes ses sorties ont été presque impeccables. Il a fait des arrêts déterminants. Donc pour le moment, c'est le numéro 1 incontestable. Après, Thuram, je pense plus que c'est un effet de mode à cause de son nom. À lui-même, il dit. Hein. On en parle parce que c'est le cousin de Lignan. Bon, franchement, entre Thuram et Ruffier actuellement, il n'y a pas photo. Quoi.
Est-ce que les gens savent qui est Lignan Thuram déjà? Premièrement, c'est ça qu'il faut se poser. Bon, bref, ça c'était, on aurait pu éviter. Je voulais aussi passer la parole à mon collègue toulousain.
Oui, donc vous disiez que Valenciennes a fait une bonne performance, mais c'est aussi dû à leurs deux derniers bons matchs contre Lyon et Bordeaux. Parce que même s'ils avaient fait match nul contre Lyon, ils avaient perdu contre Bordeaux, ils n'avaient pas été mauvais. Donc c'est plutôt de bon augure pour la suite.
Le match de Waterpolo.
De la lutte pour le maintien. Ouais, voilà, le match de Waterpolo contre Lyon. Donc c'est plutôt une bonne chose pour la suite du maintien pour Valenciennes.
Quand on voit ça, on peut vraiment pas imaginer que c'est une équipe qui est avant-dernière du classement. Là, tu ne pourras pas me contredire, Hugo. Quand tu vois un match, la prestation livrée par les Nordistes, tu te demandes comment ils font pour être 19e du classement.
Ouais, bah, ce que j'allais dire, c'est pas Monaco qui a fait une mauvaise rencontre, c'était Valenciennes qui a été énorme. Et après, il faut se demander si Valenciennes a la motivation pour faire des matchs tels contre des équipes comme Sochaux, contre Lorient et Caen. Enfin, des exemples comme ça. Mais parce que là, c'était Bordeaux, Lyon et Monaco. Enfin, même si Monaco, c'est plus le grand club d'il y a 3 ans. C'est quand même pas mal. Et ça se trouve, les joueurs étaient surmotivés, ils voulaient prouver quelque chose. Et après, il faut qu'ils confirment contre des équipes de fond de ligue intérieure.
On le disait justement que Valenciennes avait pris très peu de points dans une des émissions spéciales Ligue 1 que je vous invite, dont je vous invite à nous retrouver lundi encore, après-demain, il y en aura encore une nouvelle. On le disait dans une des dernières, il y a 2 semaines, il me semble que au calendrier de Valenciennes, c'était presque les moins bien partis, parce qu'ils comptaient une quinzaine de points, enfin même pas, puisqu'là ils sont montés 18e avec 14 points actuellement. Avec le calendrier qu'ils avaient, donc déplacement à Lyon, déplacement aussi à Bordeaux et réception de Monaco, on pouvait pas imaginer que qui pourrait ramener des points. Et finalement, ils en ramènent d'une façon intéressante un point de Lyon. Ils en ramènent pas de Bordeaux, mais livrent quand même un match correct. Et là, on prenne 3 à Monaco. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un espoir qui peut renaître du côté valenciennois. Un message justement sur les valenciennois et en plus particulièrement sur un Valentin.
Ouais. Donc, on a un message de Henry qui nous dit donc Sanchez n'est pas inconnu quand même. On a pas mal entendu parler de lui l'année dernière. Ensuite, le fait qu'il joue à Valenciennes, ça laisse forcément un peu dans l'anonymat. Et il a dit qu'il fallait que Monaco, en plus de la défaite, a 4-5 suspendus. Donc c'est un peu la cata pour eux. L'animal Perez Nepo est un peu désespérant, il trouve. Et petit aparté, c'est la première fois qu'il écoute la radio et il trouve ça assez top, il demande de continuer.
Ah bon, on le remercie, merci beaucoup à toi. Bah, c'est vrai que, enfin, on va pas, j'ai peut-être abusé en disant que c'était un inconnu, mais c'est vrai qu'il n'était pas, c'était pas non plus une des stars de la Ligue 1. Et puis, quand on voit un but comme ça, c'est normal que ça soit décourageant, à l'image d'un Maréval qui marque contre Marseille à un but de 35 mètres en pleine lunette. C'est vraiment, c'est décevant pour les supporters quand on voit ça. Quoi. C'est compréhensible quand on est supporter quand on voit ça. Puis dernier sur Monaco, Hugo, et pour conclure, parce qu'après on a encore beaucoup de matchs derrière, donc vas-y.
Ouais, c'est un petit coup de gueule sur un joueur. C'est le capitaine de Monaco, c'est une imposture, il ne sait rien faire sur son côté droit, si on parle bien sûr de François Modesto. C'est encore aujourd'hui qui dirait que c'est lui le maillon faible, quoi. Aujourd'hui, 2 buts viennent de son côté, mais ce joueur, il nous bouffe les victoires, il nous bouffe des points. Contre Sochaux, je crois encore que c'est lui qui fait une erreur. Contre quelle équipe il fait encore une erreur. Mais il fait que des erreurs, il sait plus faire ça, quoi. Et il le fait bien, et c'est dommage pour lui.
En parlant de comment de mauvais et de mauvais joueurs, on va dire que il y a mon cher Leko qui a réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, bah, c'est pas inconnu lui, mais il est rentré à la, il me semble, il est rentré, je ne sais plus.
À la 70e.
70e, ouais, voilà. 70e minute et à la 85e minute, il n'a pas s'empêché de s'énerver et finalement de prendre un deuxième carton jaune en 20 minutes et donc de se faire expulser. Ça devait un peu lui manquer depuis le début de la saison. Donc c'est vrai qu'en mauvais en termes de mauvais joueurs du côté de Monégasque, il y en a un deuxième ce soir. Il y a Fabien qui nous a rejoint. Salut à toi Fabien.
Salut Arnaud.
Et tu voulais tout de suite réagir sur ton équipe et en particulier sur Modesto, c'est, il me semble.
Ouais, j'entends Hugo un peu critiquer Modesto, à juste raison d'ailleurs, parce que c'est clair que sur les derniers matchs, Modesto n'est pas exempt de tout reproche. Mais je voulais juste lui demander si t'enlèves Modesto du terrain, ce qui peut se concevoir au vu de ses dernières performances, ça veut dire qu'il n'y a plus de capitaine sur le terrain. Alors qui est-ce que tu mets en capitaine à sa place? C'est bien ça le problème.
Dario Simic.
Est-ce que tu mets un joueur qui parce que est-ce que Simic parle la langue française déjà?
Il apprend au fur et à mesure et puis c'est quand même quelqu'un de en défense, t'as pas réellement besoin. Il a besoin d'apprendre quelques mots pour dire à ses défenseurs de sortir, de s'aligner ou. Mais je pense qu'il a vraiment un réel. D'ailleurs à Milan, on l'avait regretté. Je l'avais dit lors de son arrivée, on l'avait vraiment regretté. Et par sa prestance, son charisme, on va dire sur le terrain, moi je trouve que ça en ferait un excellent capitaine et il serait vraiment écouté de toute sa ligne défensive. Tu crois pas Hugo?
Ah, effectivement, Simic, il sera un bon capitaine, il a la gueule du capitaine, il a l'expérience, c'est le joueur le plus capé de la Croatie, et il a fait une bonne carrière au Milan, donc il a l'allure du capitaine et du bon capitaine, et Modesto, pour moi, il ne l'a pas, quoi, même s'il a passé certaines années à Monaco, c'est des années où il a été fantomatique, quoi.
C'est sûr. Mais et puis moi, en termes, c'est sûr qu'on pourra nous dire aussi qu'en termes d'ancienneté, on a connu mieux au niveau de Simic. Mais à ce compte-là, on peut difficilement trouver un capitaine à Monaco, à moins de mettre Meriem, bon, qui est absent ce soir. Mais après, les pistes se restreignent considérablement au niveau du capitanat du côté monégasque. Et moi, je serais vraiment pour mettre pour quelqu'un comme Simic, qui a vraiment un charisme intéressant et qui pourrait être écouté dans le vestiaire. Voilà. Bon, pour finir, je vais rappeler le classement de Monaco, qui est donc 12e après cette journée avec 23 points, une différence de but de 0. Donc, on reste dans les performances habituelles, comme on pouvait annoncer du côté monégasque. Une victoire, deux défaites, une victoire, un match nul, enfin l'irrégularité complète enseignée par un certain Ricardo. C'est l'habitude et on commence à s'y faire du côté monégasque et les victoires qui arrivent pendant cette suite, comme je pouvais le dire, permettent sa conservation au poste d'entraîneur du côté de Monaco et tout le monde le déplore. Voilà, je finirai là-dessus. Comment ?
Moi le premier, hein, Ricardo, il a pas sa place à Monaco, il a pas réussi durant son année de migre, il sera pas. C'est de bon temps être intelligent, il ne le fait pas prolonger, il attend la fin de saison pour le laisser partir.
Une petite réaction, Fabien, Ricardo.
Ouais, c'était un peu la même chose, et puis c'était aussi surtout sur le cas monégasque dans cette première partie de saison. Comme tu le disais Arnaud, on voit que Monaco n'arrive pas vraiment à enchaîner les bons résultats, je dirais même pas les bons matchs, parce que même en cas de victoire, moi je trouve pas que Monaco est transcendant depuis le début de la saison. On l'a vu, ils enchaînent deux victoires, notamment une victoire face au Mans avec 3 buts en 6 minutes, et puis après ils enchaînent la semaine dernière un match nul miraculeux, d'ailleurs il n'y aurait jamais dû avoir un match nul contre Sochaux. Ce soir, ils se prennent une petite rouste face à Valenciennes, donc on voit qu'il n'y a vraiment aucune constance dans les résultats, et ça prouve qu'il n'y a aucun véritable fond de jeu. du côté monégasque. Et c'est bien ça qui est inquiétant et qui me fait dire et nous faire, je pense, supporters monégasques, que bah, Monaco va pas droit dans le mur, mais ira jamais loin avec une équipe comme ça et avec un entraîneur comme ça. Donc c'est clair que pour moi, bah, il faut changer quelque chose à Monaco. C'est quelque chose, mais je le vois pas partir avant la fin de la saison. Et est-ce que De Bontin est assez suite pour voir qu'il faut changer Ricardo et voilà quoi. Moi, j'ai pas l'impression que De Bontin ce soit aussi un aussi bon président qu'on veut le dire.
Oh bah, que certains veulent le dire, mais c'est pas mon cas personnellement. On va remonter un petit peu plus dans le classement maintenant et passer tout de suite, parce que notre temps est assez réduit, puisqu'on vous le rappelle à minuit, la spéciale Classico d'Espagne qui est en train de regarder, que nous, dont nous parlera Marvolo. On va donc tout de suite passer aux Toulousains. Les Toulousains ce soir qui accueillaient les Stéphanois et dont le match a été vu par Rognetto. Je te laisse sur ce match, Rognetto, vas-y.
D'accord, donc bon, victoire à Toulousain 3-1. À noter donc que la première victoire du TFC avec 3 buts mis, donc c'est une grande première. Et à noter aussi le troisième doublé de Gignac après Sochaux et Grenoble, donc vraiment attaquant en forme qui a marqué son 9e et 10e but ce soir. Donc qui est premier avec Kavena, Guy et Bo. Donc le film du match, c'est donc le premier but qui arrive très rapidement dans la partie. Donc j'ai lancé par Oslo, Gina qui part sur son côté gauche, il repique et envoie une frappe. Une frappe que Jeannot aurait cru qu'il aurait mis dans son côté opposé, mais non. Gignac a bien vu Jeannot qui a perdu un peu ses appuis, il a profité de ça et donc il a mis son coup de patte qui permet au TFC de mener 1-0. Donc après 4 minutes 2, c'est Gignac qui se fait 3-4 fois qui nous marque un but dès le début du jeu, enfin dès le début du match, et ça nous fait vraiment du bien pour la suite.
Il est exceptionnel en ce moment, Gignac.
Ouais, vraiment, c'est vraiment l'homme. L'homme fort de notre équipe, hein, il a marqué l'homme des 17 buts toulousains, donc
meilleur buteur avec Waro et Kavenaghi.
Exact. Donc le TFC a vraiment dominé cette première partie, cette première mi-temps, sauf que à la 37e minute, j'ai pas vu les images, mais j'ai vraiment un coup franc, j'ai pas compris pourquoi il avait été sifflé. Courant de Machado, poteau rentrant, équerre rentrant, comme vous voulez.
Ah ouais, Machado, il a peut-être pas compris non plus pourquoi il était sifflé, mais en tout cas, il l'a tiré magistral.
Ouais, super coup franc. C'est son deuxième en deux matchs, et c'est également le deuxième coup franc direct qu'on encaisse en deux matchs après Bastos. C'est un but qui nous fait vraiment, vraiment mal, puisque on avait dominé quasiment toute la première mi-temps. Ce but, il est pas vraiment mérité. Et Dido, vraiment l'autre homme clé du TFC qui nous remet donc devant avec cette super but qu'il nous a mis. Donc c'est ça part d'un corner tiré par lui-même, donc repoussé, ça lui revient dans les pieds. Il fait une faible de frappe.
Tirer le corner, il était à la réception.
Exactement, c'est la tête stéphanoise qui a dégagé sur lui. Ça frappe, puis il frappe enroulé dans le petit filet opposé, mi-hauteur, donc sublime. Donc c'est, hormis le but, c'est vraiment une grosse récompense pour Dido qui mérite vraiment de marquer. Vas-y, Roméo.
Oui, donc je voudrais savoir si Gignac n'a pas une pression en moins, un poids en moins, parce qu'il a plus vraiment de concurrent à son poste à Toulouse, vu que maintenant Elmander est parti. Je voudrais savoir si le fait qu'Elmander soit parti, ça a pas donné confiance à Gignac qu'il puisse enfin avoir sa chance sans trop de pression, quoi.
Bah, c'est sûr que le secret vient de là, il y a pas photo, hein. Les concurrents qu'il a actuellement, c'est Larsen, qui a dû jouer, qui a une moyenne de 20 minutes de temps de jeu par match, donc rien du tout. Ça fait 4-5 matchs qu'il a pas joué, et l'autre concurrent qu'il pourrait avoir, c'est Pentecôte, qui revient de blessure et qui a joué 5 minutes aujourd'hui. Donc c'est vrai que Gignac c'est vraiment le seul attaquant sur qui on peut compter en ce moment. Donc j'imagine même pas s'il se baisse, mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est l'attaquant, c'est vraiment l'homme fort et l'homme qui nous permet d'être sixième à l'heure actuelle. Et qui profite également du départ de Elmander. Donc à noter aussi qu'il a mis 10 buts. Et l'année dernière, il en avait mis que 2, mais Elmander n'en a mis que 11. Ce qui veut dire qu'en une demi-saison, il a mis quasiment le même nombre de buts qu'Elmander. Donc c'est un joueur qui rentre plus dans le profil d'attaquant qu'on recherche, c'est-à-dire un attaquant posé, qui sait garder la balle, qui se crée des occasions lui-même. Vas-y Hugo.
Ah mais faut faire attention à ça, parce qu'en Ligue 1, un attaquant qui marque beaucoup de buts, qu'on ne connaissait pas, bah, qui marquait pas beaucoup avant, généralement il s'arrête au milieu de saison et après il marque plus, quoi. Faut qu'il évite ça.
Oui bah ça j'ai le futur, l'avenir nous le dira. En tout cas si l'équipe continue comme ça, je vois pas de raison pour qu'il ne marque plus de buts en jouant 4-5-1, c'est le seul attaquant de pointe. Donc s'il marque plus, ça sera vraiment très inquiétant pour nous, donc.
Ou alors on a les effets Gomis, ceux qui marquent pendant une saison, on n'en peut plus, ouais. On sélectionne à une Coupe d'Europe et finalement on s'aperçoit qu'ils sont nuls. Ouais, oui, réaction Gomis. Hugo.
Non. Bah si.
Ah, faut savoir.
Dido, il a été bon.
Tu m'amuses. Là. C'est pas parce que.
Bah, Dido en fait, il est toujours bon. Dido, il est toujours bon. C'est vraiment jamais vu ça.
Il est meilleur que bon en fait, c'est pop.
Oui, oui.
Là j'ai l'impression qu'il est meilleur que bon.
Dis-le que c'est ton coup de cœur, calme-toi un petit peu.
Oui, bah c'est plus que mon coup de cœur, c'est mon. Ouais, c'est. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, donc.
Ah, il était dans ton cul hier soir. D'accord.
Il y avait Fab.
Ah ouais, j'avais une petite question sur un peu le jeu toulousain. On voit qu'en début de saison, on critiquait pas, mais bon, on disait que Toulouse c'était surtout et avant tout un bloc défensif. Et puis là, on s'aperçoit que petit à petit, Toulouse est en train de construire un jeu plus alléchant et que au niveau du secteur offensif, Gignac, il confirme match après match qu'il est bien là cette saison. Mais surtout, on s'aperçoit que d'un bloc uniquement défensif, Toulouse est passé à une équipe qui produit du jeu maintenant et du jeu offensif.
Oui, donc je réponds juste à la question. Il y a penalty pour le Barça, donc on va le suivre en direct. Donc, tout du score, 4e minute de jeu dans cette deuxième période. Penalty, donc après une faute sur Messi qui était vraiment tout seul. Attention. Et c'est l'arrêt de Casillas sur le penalty de Eto'o. Oh là 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 là. Arrêt de Casillas sur ce penalty. Ouh là là, putain. Coup de théâtre au Camp Nou. Donc Casillas qui sauve le Real Madrid de l'ouverture du score. Donc vraiment.
C'est pas grave. Pleure pas mon Rognetto. Bon.
Non ben bah, voilà, je suis déprimé.
Dido a marqué un but.
Ouais non mais de toute façon.
T'auras Youssef pour toi tout seul à la fin de l'émission.
Oh non, je te le laisse, c'est bon. Donc je disais pour répondre à la question de Fab. Qui disait donc on avait un bloc défensif solide et qu'on arrivait tout cette année à marquer des buts, donc on a eu un petit temps, c'est vrai que défensivement c'est du lourd, même si on s'est pris un but ce soir, on reste la deuxième défense de la Ligue 1. Offensivement c'est vrai qu'on prend plus nos marques, on a un attaquant comme j'ai dit qui rentre plus dans le profil d'attaquant qu'une équipe qui a ce schéma tactique recherche. Un attaquant qui arrive à se créer ses occasions. Quand on voit les deux buts qu'il met ce soir, il doit rien à personne. C'est vraiment lui qui. Deuxième but où il fait un grand pont, il part tout seul, il se fait tacler dans la surface, il se relève, il frappe. Bon, il a la réussite avec la boulette de Jeannot, mais c'est vraiment donc l'attaquant qu'on recherchait. Puis derrière, ça suit. Donc c'est vrai que pour l'instant, il y a pas de raison pour qu'on s'arrête sur cette bonne lancée. Donc
moi je me dis et je me demande si en fait cette saison Gomis s'est pas un peu confronté au problème que Gignac avait l'année dernière, c'est-à-dire confirmé. Bon, évidemment c'est pas le même contexte puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, Gignac était un peu barré par Elmander, or Gomis il y a personne à Saint-Étienne pour le barrer et il arrive pas à confirmer. Donc je me demande s'il n'y a pas une petite ressemblance éventuelle entre les deux cas.
Disons que Gomis, l'année dernière, c'était au contraire, il a marqué une quinzaine de buts, alors que Gignac en a marqué deux. Gomis, on attendait qu'il confirme, alors que là, Gignac, c'est plutôt une découverte, c'est plutôt un attaquant qui est explosé. Donc, l'année prochaine, oui.
L'équipe de France.
On espère, ce serait mieux pour lui, il mériterait. C'est vrai que l'année prochaine...
On a bien pris sa vidante.
Oui, bah,
l'ancien, il peut bien choisir maintenant Gignac, hein. Il est plus à sa place.
Sauf pourquoi pas. Ce serait
Tonton Rio.
Ouais, même si un monde devant une équipe de France, pourquoi pas. Ce serait mérité. Oui, donc Gignac, ce sera plutôt l'année dernière qui devra confirmer la prochaine plutôt, qui devra confirmer cette bonne saison qu'il nous fait là, et s'il confirme. Il fera comme Gomis ne l'a pas fait, c'est-à-dire confirmer. Gomis qui ce soir a été vraiment très 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 moyen, il a très peu décroché, il a été souvent seul devant, puis aucun impact physique sur la défense, donc voilà, match très moyen de Gomis.
Juste une petite réaction de sur le forum que va nous commenter Valentin.
Ouais, donc un message de notre partenaire national. Si Amana est bien remplacé, si oui, pas pris, sinon elle termine.
On n'a pas entendu ta question, Valentin.
Il a
pas
entendu Amana et après.
Allez, tu prends deux minutes, c'est bon là ?
Oui, c'est bon, nickel.
Oui, c'est bon, nickel. Ok, donc c'est Fab qui nous demande si Amana est bien remplacé. Si oui,
Sors de cette baignoire, mais.
T'es dans un aquarium, c'est pas possible. Voilà.
Ouais, ça doit être.
Nemo le poisson.
Non, là t'aurais dû éviter ça, Hugo. Tu vas fuir nos auditeurs. D'ailleurs, que je salue Carou76 qui nous écoute et un ancien membre de la radio qu'on salue, Carou. Je salue les 11 auditeurs exactement qui sont en train de nous écouter. Merci Dan en off qui m'aide, parce qu'avec ces guignols, là, qu'est-ce que vous croyez que je peux faire? Entre l'un qui est dans sa grotte, là, l'autre là qu'on n'entend pas, et puis l'autre qui a une voix de fille, là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Il faut le plein de l'orital, il faut plein de l'orital. Hein.
Attends, Valentin, est-ce que t'es là? Non.
Est-ce que vous m'entendez?
Nickel. Vas-y, tu peux poser la question sur Emana.
Donc je recommence. On nous demande si Emana est bien remplacé.
En fait, on entend les deux premiers mots, mais par la suite, tu le planches totalement, quoi.
Il a une crise d'asthme.
J'entends Emana et la suite Nieto.
On va te poser une question sur Emana, Rognetto. On espère que c'est celle-là qui est posée sur le forum. Ouais, Emana a été remplacé cette année et par qui? Je pense que ça va être
par Dido.
Puis par l'explosion de Capou et de Sissoko. Donc Capou et Sissoko qui forment la charnière défensive, milieu défensif de l'équipe de France Espoir. Capou qui est d'ailleurs le capitaine de cette équipe de France Espoir. Donc c'est vraiment deux jeunes vraiment... Qui montre qu'ils ont tout pour titulaire et réussir dans ce club. Qui a été pisté par Liverpool et donc le TEF qui a bien sûr décliné son offre et les deux joueurs ont d'ailleurs prolongé leur contrat jusqu'en 2013, donc pour l'instant on est sûr de les garder au moins encore deux ans pour qu'ils puissent affirmer confirmer surtout leur bonne prestation qu'ils sont en train de faire avec nous. C'est
ok, c'est donc vraiment... aucun manque au milieu de terrain depuis son départ.
Ouais,
avec
non, aucun...
votre Momo Sissoko à vous.
Moussa, ouais. Moussa Sissoko, ce qui est vraiment...
Je l'appelle Momo, moi, parce que...
À 19 ans, il a un physique, mais vraiment exceptionnel. Il a un impact énorme. La semaine dernière, contre Marseille, il avait littéralement... Enfin, non, il y a deux semaines, contre Marseille, il avait littéralement mangé Taïwo sur son côté. C'est pour vous dire. Donc, Sissoko, Capou et Dido, c'est vraiment les trois, le trio. Enfin, Capou ce soir était suspendu. C'était solide.
Et pour finir sur ce match, on va dire que ben, Saint-Etienne replonge. Ça n'aura pas fait longtemps, l'effet Perrin. Pourtant, encore un magnifique but du jeune Machado, hein, qui est vraiment très très bon joueur.
Ah ouais, c'est vraiment poison, ce joueur.
Ouais, et ça confirme rapide. Un très bon début de saison.
Ouais, ça c'est vrai que...
Ouais. Moi, je l'aime beaucoup. Avec un retour de Jeannot dans les buts, tu l'as trouvé comment, hormis les trois buts qui se prennent
Non, franchement, il a été plutôt bon. Même sur le troisième but, il a exempt de tout reproche. Il a fait des bonnes parades. Même si, bon, hormis les trois buts, il n'a pas eu énormément de frappes de notre côté. Il a notamment un bel arrêt sur une frappe de Dido.
Ok. Des bonnes sorties. Moi, c'est un gardien que j'aime beaucoup par sa mentalité. Donc, c'est pour ça que je tenais à le signaler.
Ouais, il a un super beau prêt.
Pour finir, je pense que ce sera sur Saint-Etienne. Fabien, un petit mot.
Ah, c'était sur Toulouse pour réagir un peu. C'était surtout pour mettre un petit bémol face à cet enthousiasme débordant sur le jeu de Toulouse et sur la performance de Toulouse depuis le début de la saison.
Mais laisse-nous notre petit Rognetto, faut le laisser dans son.
Juste une petite stat, et au-delà de cette stat, il y a quand même Gignac qui marque 60% des buts de Toulouse. Donc moi, je suis impatient, même si je ne le souhaite pas, de voir Toulouse sans Gignac, voir ce que ça donne. Et Toulouse sans Gignac et Dido, je pense que c'est plus le même Toulouse. Et c'est peut-être la profondeur du banc, la qualité des remplacements qui fera un peu la différence au fur et à mesure de la saison, quoi. Donc c'est un peu ça, peut-être... le petit point noir, on va dire, de Toulouse, quoi. Mais on peut pas tout avoir, c'est clair.
Oui, un attaquant, c'est fait pour marquer. Puis bon, on a eu des blessures de Bratton. Mansaré, qui est vraiment très mauvais, n'a pas joué. Il a joué avec la CFA, d'ailleurs. Donc, on a joué pendant 3-4 matchs avec 10 joueurs à vocation défensive. Avec Gignac, qui était seul pour marquer des buts. Donc, c'est notamment ça, enfin, pour cela qu'il a marqué autant de buts pendant cette période. Puis, quand il se baissera, on verra. On espère qu'il se baissera pas, mais en tout cas, on a deux joueurs, Larsen et Pentecôte, qui ont deux profils complémentaires. Donc, si jamais il se blesse, on pourra essayer d'aligner les deux. Ça pourrait être pas mal. Et quand tu disais sans Gignac et Dido, Toulouse ne pourrait peut-être pas tourner aussi bien. Enlève Juninho et Benzema à Lyon, et ça fait ces joueurs très importants au dispositif et
attaque. De club à club, ça commence.
Non, mais c'est une petite comparaison assez significative. C'est des joueurs très importants au milieu de terrain et l'autre qui est très important dans l'attaque. Gignac, c'est aussi notre tour de contrôle devant, c'est notre point d'appui, c'est le joueur qui déclenche toutes les offensives. Et
oui, comme c'est Benzema, ça. Dehors de ses buts qu'il marque, en plus, il est présent dans le jeu. C'est ça qui est très important.
Ouais, très important.
Je suis qu'on essaye de tuer l'enthousiasme de mon petit Toulousain qui est trop heureux ce soir.
Ouais, c'est.
C'est vache quand même, les gars, vous abusez.
Ouais, non, franchement, ouais. Surtout quand on supporte Monaco, voilà.
Oh, j'essaye de le comprendre et voilà. Voilà,
c'est. J'ai rigolé. Non, merci, c'est sympa. Non, mais franchement, pour l'instant, on est content. 6e à 4 points de Lyon, à une journée avant la trêve. On n'aurait jamais imaginé qu'on puisse. Arrive à faire ça et on est tous contents et pourvu que ça dure.
Ouais, exactement. Ah, justement, pourvu que ça dure, ça sera maintenant notre mot pour qualifier le Paris Saint-Germain. Voilà. Je prends un ton grave parce que ce soir, mon chouchou Guillaume Haro n'a pas marqué. Je suis déçu. Mais Cessegnon a mis un doublé, 2-1, victoire du Paris Saint-Germain, très net. Très très net. Paris aurait même pu gagner avec un écart bien plus large. Angbar a réduit sur pénalty la marque à la 86e minute. Franchement, Paris a très 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 bien joué et a encore impressionné tous les spectateurs qui auront regardé ce match parce que Auxerre, c'est très faible. Alors là, je le dis tout de suite, c'est très très faible. Mais c'est vrai, Paris a vraiment montré de belles qualités. Et là, parce que je voulais faire juste le rapprochement, voilà, pour terminer définitivement le sujet de Toulouse. Je voulais dire que Toulouse était un petit peu avant ce match-là le Paris Saint-Germain du début de saison. Il gagnait, mais avec pas un réel écart, ce qui les laissait toujours sous la menace lors des matchs. Tandis que là, Paris commence à gagner avec des victoires un petit peu plus larges. On les a eu contre Le Mans, On a vu, là on voit ça ce soir, où ils se prennent un but à la fin, mais si Ouaro a un face-à-face, Cessegnon rate aussi une reprise à 6 mètres du but. Donc Paris a vraiment dominé ce match-là, et je suis en train de me demander si Paris n'est pas de plus en plus concurrent à ses trois premières places. Et pour moi, je vais peut-être le réaffirmer, Paris a fait, je pense, un des deux meilleurs recrutements cette saison. Qu'on le veuille ou non, ça va peut-être en faire crier certains, mais des Makelele, des Djouli seraient revenus dans un club comme Lyon ou Marseille, on en aurait fait tout un plat. Mais là, ça a été, ils sont revenus à Paris, on en a parlé sans non plus trop encenser tout ça, et finalement, ils font un boulot extraordinaire. Et je suis vraiment content du Paris Saint-Germain qui n'a plus peur de son public ni de la défaite, comme nous dirait un certain Dan en neuf. Fab, un petit mot sur ce que je viens de dire.
J'aurais une question à te poser. Ne serais-tu pas en train de devenir supporter parisien, Arnaud ?
Ah mais pas du tout, c'est juste que j'aime bien ce club-là. Premièrement, parce que je déteste Marseille, premièrement. Et deuxièmement, c'est juste que Paris me plaît beaucoup cette saison. Alors autant la
si vous voulez, petite parenthèse pour l'ouverture du score de Samuel Eto'o, donc sur cette action offensive barcelonaise sur corner, donc ouverture du score de Eto'o à la 37e minute dans cette deuxième période, donc à moins de 10 minutes avant la fin du match,
c'est bon, tout
à l'heure. Hein. Comment? Casillas avait arrêté un penalty, donc Eto'o qui reprend le dessus sur le gardien espagnol et qui se venge avec ce coup de. Attends, c'est un deux temps, un coup de tête de Puyol, je crois, repris par Eto'o, donc qui fusille Casillas littéralement. Donc ouverture du score.
Encore un petit coup de taser, Dan. Voilà, merci pour nos éditeurs qui sont de plus en plus à aimer ce petit laser fait par Dan.
Ça fait plaisir.
Un vient de partir après le deuxième coup de laser. Un auditeur vient de nous quitter, malheureusement. Il n'a pas apprécié ce deuxième coup. Fatal. Une petite réaction justement de Cénote, un des très fidèles supporters parisiens sur le forum, que je vais lire comme on a des petits problèmes de connexion avec Valentin. Cénote qui nous dit évidemment pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on pense de Cessegnon? Est-ce le nouveau Ronaldinho du Paris Saint-Germain? Et aussi, qu'est-ce qu'on pense de la possibilité d'un podium pour Paris cette saison? Et est-ce un véritable comeback du Paris Saint-Germain, enfin, depuis le temps qu'on attend le fameux train PLM, où on verrait les trois grosses équipes de France batailler pour le titre? Est-ce enfin cette saison? Je vais d'abord te poser la question à toi, Fab. Après, Ch'ti, tu répondras à ça. Et moi, je dirais aussi un petit avis sur Cessegnon. Vas-y, Fab.
Ouais, bah déjà, d'une part, parler de comeback. Enfin, comeback depuis alors le début de la saison. Parce que ça avait quand même un petit paquet de matchs que Paris montre de belles choses et montre surtout une force collective importante. Et donc, bah ouais, je pense que c'est dans la continuité.
Justement, c'est ce qu'il voulait dire, je pense. C'était comeback.
Ouais, voilà, mais moi je l'ai pris un peu dans le sens où tiens, ce soir on a l'impression que Paris justement a assuré sa victoire, comme tu l'as dit, de façon assez large. Mais c'est clair que c'est un tout, c'est un match que ça se construit. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Arnaud. Tu disais que Paris avait sûrement fait un des deux meilleurs recrutements. Ok, mais t'as quand même pas mal de joueurs qui l'an dernier étaient moyens, qui cette année sont devenus assez bons. T'as un joueur comme Clément qui a un rayonnement maintenant au milieu du terrain parisien qui est assez énorme. T'as Seara à droite, c'était quand même une petite quiche la saison dernière. Et là, franchement, je le trouve. Enfin, j'ai vu quelques matchs, j'ai trouvé en confiance, il joue pas mal. On a le grand Sami Traoré qui était au fond du gouffre l'an dernier, qui avait été prêté à Auxerre et puis qui là, il joue pas mal. Et puis t'as un Lunindoula qui est ressuscité depuis le début de la saison.
Exactement.
Donc je pense que t'as raison, ils font un bon recrutement, mais derrière t'as des joueurs qui la saison passée étaient mauvais, moyens, et qui cette saison sont pas mal. Et le meilleur exemple pour finir, c'est un Mickaël Landreau qui, je crois que ce soir, a fait encore un très gros match, quoi.
Exactement. Oui, non, mais c'est ça. Il sort encore une parade de la main opposée très, très jolie. Et c'est vrai que le fait d'être entouré par des joueurs qui inspirent la confiance, comme Julie et Makelele, ça entraîne des Clément vers le haut. Clément que j'ai tant je vais pas aller jusqu'au point de haïr, mais c'était vraiment un joueur qui me déplaisait au plus long point. Et cette année, il a une association complémentaire avec Makelele très très intéressante. Moi qui prenais le fait de replacer Cessegnon dans l'axe, de plus en plus Clément est en train de me montrer que il devient pas indispensable au PSG, mais qu'avec lui le PSG marche très bien et que Cessegnon peut être replacé sur un côté, même si le deuxième but qu'il met, Cessegnon d'un double contact, il élimine deux joueurs et s'en va marquer un but de l'extérieur du pied. C'est encore dans une percée dans l'axe où on voit que Cessegnon, c'est à ce poste-là qu'il est le meilleur. Mais c'est vrai que sur le Paris Saint-Germain, il y a vraiment un effet cette saison. Tout cet effet vient du recrutement, et de l'équilibre qu'a trouvé l'équipe. Mais le bémol que je vais mettre sur toutes mes belles paroles que je dis pour le Paris Saint-Germain, c'est que Paris n'a pas de profondeur de banc et c'est le problème. Ils ont un Louis Ndoula, mais par contre, et on va dire Louis Ndoula, Chantôme et Sako, on va dire oui, allez, un bon joueur pour remplacer à chaque ligne. Mais à côté, par exemple, si je regarde le banc ce soir, il y a Fabrice Pancrate qui est pour moi tout sauf un joueur de football. Il y a Grégory Bourillon qui est la polyvalence, mais qu'à tous les postes où il peut être polyvalent, il est aussi mauvais les uns que les autres. Il y a donc Chantôme Sako, c'est ceux que je mets en dehors. Et puis il y a Edel au gardien pour remplacer Landreau. Justement, un petit mot sur Landreau. C'est vrai que lui aussi, il revient bien, il fait un bon match ce soir et il a une certaine envergure dans sa surface. La saison dernière, on voyait des prises de balles défaillantes, des sorties pas toujours bien réussies. Et là, il est à l'image de l'équipe transfigurée. Et dire que la saison passée, le maintien du Paris Saint-Germain, c'est jouer un pointu d'Amara Diané, celui qui a été transféré 8 millions au Qatar, un pointu d'Amara Diané qui passe entre les jambes de Teddy Richert, le ballon qui frôle le poteau et qui rentre à 2 à l'heure. La saison du Paris Saint-Germain s'est jouée là et maintenant on voit Paris qui est troisième avec 32 points au classement et j'ai envie de dire que bravo le PSG, je trouve vraiment qu'ils ont fait quelque chose de très très bien cette saison. Villeneuve a peut-être pas fait beaucoup de bruit, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, mais franchement ce qu'il a réussi à faire, c'est digne pour quelqu'un qui n'était pas dans le foot avant, c'est vraiment digne des plus grands et d'avoir fait ça, je lui tire mon chapeau. Voilà, une petite réaction ch'ti.
Ouais, bon, si Paris réussit plus cette année comparé à la saison dernière, bon, ça c'est sûr, c'est que les joueurs évoluent vraiment dans un groupe. L'année dernière, on avait des comportements, c'était à la limite, on pourrait carrément considérer que c'est du narcissisme, hein, de l'égoïsme. Il y avait aucun soutien, on avait même eu droit à la pire des conneries. Je prends le nom de Yepes qui avait réclamé une prime en cas où le PSG arracherait le maintien. Maintenant la preuve, Yepes n'est plus du tout au PSG, je sais pas où il est maintenant. Mais ouais, bon voilà, ça correspond à sa chute. On voit maintenant qu'ils sont plus adaptés à qui évoluent vraiment comme un seul homme. Et sinon, tout à l'heure, on avait dit que qu'on comparait Cessegnon au nouveau Ronaldinho. Enfin, c'est un peu se prendre le chou, parce que Cessegnon, on l'avait vu faire une bonne saison avec Le Mans avant. Oui, d'accord. Mais Ronaldinho, lui, il avait été révélé par la Coupe du Monde 2002. Là, c'est quand même pas rien que ça. Il avait fait déjà des gestes assez énormes.
C'est sûr, mais il faut rester mesuré quand on dit c'est le nouveau Ronaldinho. Mais c'est vrai que dans ses caractéristiques, moi je le rapprocherais peut-être encore plus d'un Okocha. Certains supporters l'ont déjà d'ailleurs évoqué cette idée-là. Parce qu'il a il est pourtant pas très grand, ces Cessegnon, mais il a quand même, alors déjà il a une détente extraordinaire, il peut monter très très haut. Et en plus, il a une résistance physique, une protection de balle, exactement, ouais. Roméo. Toi qui es une fille, tu dois apprécier les garçons bien musclés, et ben lui, il en fait partie. Et franchement, c'est vraiment impressionnant. Non, mais sans rigoler, les gars, je vous jure que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Je l'ai vu jouer, je suis allé le voir à Saint-Etienne. Je suis allé le voir à Saint-Etienne et lors du Saint-Etienne Paris Saint-Germain où...
Pour le... 2-0 pour le Barça.
Et Tazer
sur ce contre...
sur Mortel, je crois que c'est, je vois pas bien là pour les images, mais je pense que ouais, c'est Messi qui marque ce but. Donc contre Thierry Henry qui donne pour Messi, Messi face à Casillas et Casillas.
Ça pourrait bien tourner à la
Casillas.
Ah mais non, c'est la 90e.
Tourne. Ouais, il la détourne mais il la touche mais elle rentre quand même. Donc voilà 2-0, le classico au Camp Nou sera pour les Barcelonais.
Il est joué là.
Voilà le plus grand bonheur Ronieto.
Qui met en soin à Madrid, je crois, je sais pas. Subtil lob, non, il a pas touché, c'est un subtil lob, franchement, si vous voyez les images, c'est vraiment un grand Messi ce soir, super geste. Des contractions devant Casillas, c'est, voilà, je vous laisse la parole.
Ouais, ok. Non, bah, si, le classico qui ira à Bordeaux, la logique est respectée depuis le début de la saison, mais on en reparlera tout à l'heure, on aura l'occasion d'en reparler avec Marvolo tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est surtout dans 10 minutes, donc je vais essayer d'abréger. Oui, pour finir sur Cessegnon, c'est vrai que son poste reste quand même dans l'axe, même si Le Guen a trouvé, il l'a trouvé où le faire jouer, donc c'est côté droit. Quelqu'un qui est un petit peu sur la pente descendante, c'est Rotten, même si ce soir il délivre un bon corner. On va dire que dans l'ensemble, Paris a encore dévoilé une nouvelle fois une complémentarité très intéressante avec un Oaro qui peut faire de très bonnes choses, c'est Cessegnon qui va les provoquer, qui a un coup de rein, une accélération exceptionnelle. Paris a vraiment une équipe très complémentaire cette année et c'est ce qui me pousse à dire que Paris peut vraiment jouer les trois premières places. Et quand on voit qu'en plus contre les gros ils ont la réussite, contre Lyon, contre Bordeaux, contre Marseille, je peux me dire que si Paris ne perd pas des points en route bêtement, et là en ce moment ils sont en train vraiment de démontrer une nette supériorité par rapport à leurs adversaires directs, leurs adversaires directs qui sont Paris, Marseille, Bordeaux, on verra plus à la longue, mais je pense vraiment que si Paris arrive à maintenir au moins une régularité, et une régularité semblable à celle qui est en train de se mettre en place, il y a vraiment moyen de faire quelque chose en plus avec les confrontations directes contre les Lions, tout ça qui leur réussissent. Je pense vraiment que Paris a besoin de faire quelque chose de très intéressant, de faire quelque chose de très intéressant. Et un certain Paul Le Guen doit vraiment jubiler, il a tellement été critiqué l'an passé, même par moi, que franchement je peux que le féliciter cette année. Il a trouvé une complémentarité Makelele Clément, il a réussi à relancer un mec comme Traoré, il a rien à dire. Franchement, bravo Le Guen et bravo tout le staff parisien pour l'instant, même s'il a été beaucoup critiqué. Alors voilà, on va finir là-dessus. S'il y a peut-être une petite réaction au niveau du forum, c'est note qui finissait lui pour lui que Stéphane Cessegnon. Il n'avait pas vu un mec comme Cessegnon aussi talentueux depuis Rony. Et il prie vraiment pour que Paris conserve cette perle. On l'avait vu, on avait entendu, mais bon, ça peut bien être un truc de footy mercatix qui nous avait sorti que Chelsea s'intéressait déjà à Cessegnon en début de saison. Donc ça, faut rester modéré, mais je pense que Cessegnon est bien à Paris et compte y rester minimum. Déjà la saison prochaine encore, je pense. Et une petite réaction de Torres Benzema qui dit toujours on attend Griezmann, c'est vrai. Même moi qui l'aime beaucoup, je l'attends encore et il me déçoit de jour en jour. Et il a aussi dit.
Je pense franchement qu'il faut rien attendre de Matteo Griezmann. On l'a vu il a quand même eu sa chance pas mal de fois sur quelques matchs. Il est quand même pâteau, qu'au niveau du contrôle de balle c'est assez faible. Au niveau de la vitesse c'est très très faible. Au niveau de l'impact physique c'est aussi faible. Donc franchement sur Griezmann moi j'attends rien Et franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce qu'on a, à Paris, il y a un Lulundula qui fait très bien l'affaire, complètement, s'il y a besoin. Quoi.
Ouais, exactement. Donc, un tout petit mot, on va dire, sur aussi un adversaire de Paris qui est maintenant le dauphin de Lyon, c'est les Girondins de Bordeaux. Avec toi, très rapide, Ch'ti, je suis désolé, on n'a pas beaucoup de temps, mais vas-y, résume-nous un petit peu le match.
Je vais vous faire un petit résumé assez court. Bon, Bordeaux qui revenait de la Ligue des Champions après son élimination contre Rome face au Mans, qui doit jouer face au Mans. Et dès la 9e minute, et ben ça aurait pu tourner à l'avantage des Manceaux puisqu'il y a un pénalty qui a été non sifflé par l'arbitre. Et donc en première mi-temps à la 60e, même si ce sont les Manceaux qui rentrent le plus dans le match, c'est Kavenaghi qui ouvre le score pour Bordeaux avec un 1-2 avec Tremoulinas. Dans la foulée,
il y a l'égalisation de l'Eichstätt. Donc ça remet les pendules à l'heure. Mais ça va durer que 10 petites minutes. Après, on a évidemment Mathieu Chalmé qui, à 30 mètres juste à côté de la ligne de touche, il met un superbe lob qui finit dans le filet opposé de Pelé, complètement imparable. Alors, ils se contentent de gérer jusqu'à la fin du match. Et donc, et en plus, ils vont remettre une couche à la 94e. C'est Jussier qui bat Pelé grâce à une déviation de la tête de Chamakh. Donc voilà, c'était le match de Bordeaux. On voit qu'ils se sont bien remis dans le championnat de France, qu'ils n'ont pas trop pris à cœur l'élimination et qui montrent que demain le match de demain peut entre Lyon et Marseille peut vraiment être décisif. Au cas où il y a un match nul, ça peut vraiment faire l'affaire de Bordeaux. Ou alors s'il y a une victoire des deux.
Tu me fais une transition toute faite, exactement, parce que sur le match de Bordeaux, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est mérité, comme tu l'as dit. Et merci beaucoup pour la transition, et d'ailleurs, je vais lancer notre cher C-H-E, accent grave, R-E, Youssef, sur Marseille. Vas-y, fais-nous ton petit commentaire. Un petit mot aussi sur Bordeaux, tu voulais ajouter ?
Non, c'est juste que à noter, après les matchs du samedi soir, donc les 5 premiers de la Ligue 1 se tiennent en 3 points. Donc il y a sans conteste, il y a un resserrement au niveau des premières places et voilà. Donc oui, pour le match de demain, malheureusement avec l'absence de Chérou, l'absence de Niang, Lyon qui va récupérer Benzema, Juninho. Je vois mal Marseille faire quelque chose à Lyon, qui est plus à l'extérieur. En plus avec Magic Samassa en attaque. Enfin, vous le connaissez, hein.
Oui, Magic, je le connais que trop, même.
le vif, il est tellement rapide, ce joueur, que... D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de Cessegnon. On pourrait comparer à Cessegnon au niveau de sa rapidité, de sa très bonne gestion de la balle. C'est extraordinaire.
Insulte pas Stéphane, toi.
On sait que t'as rendez-vous avec lui après.
Exactement. Toi, t'as rendez-vous avec Rognetto, donc c'est pas mieux, excuse-moi.
Je dément ces rumeurs.
C'est Youss en arbitre.
C'est bon, non. Rognetto a rendez-vous avec Pepe Guardiola pour fêter la victoire.
La reine de la nuit.
Exactement, la reine de la nuit. Oui, donc, quelqu'un voudrait ajouter un petit mot sur le match de demain, par exemple. Toi, Rognetto, qu'est-ce que tu vois demain entre Lyon-Marseille, une victoire lyonnaise, victoire marseillaise?
Franchement, je sais pas du tout. Je vois un gros score. Je pense que ça va être un match assez ouvert. Mais je pense que c'est le champion en titre qui va gagner demain, qui va vraiment montrer qu'une fois de plus, il n'y a aucune équipe qui pourra les battre cette année. C'est une équipe qui, depuis le début de la saison, a toujours répondu présent à un grand rendez-vous à Bordeaux, en Ligue des Champions, contre les grosses équipes. Donc franchement, pronostic 3-1 pour Lyon.
Ok. Ch'ti, un petit prono aussi, toi, pour demain. Ah, apparemment, trop de vent dans le nord.
Excusez-moi, c'est un petit problème. Moi, je ne prends pas de particulière envers l'un ou envers l'autre. À la limite, je m'attendrais plus à un match nul, quitte un 0-0. Typique de Ligue 1, bon, pas typique de cette journée, on a vu des beaux buts. Mais non, moi je vais pas prendre parti d'une équipe en particulier.
Ok. On a bien compris les gars. Je vous remercie tous, parce que on va pouvoir enchaîner avec l'Espagne, avec Marvolo, avec Helvetia qui nous rejoindrait, tout ça. Parce que dans Génération Tankers, on enchaîne, on n'arrête pas, on est comme ça chez nous. Je vais remercier Roméo qui était avec nous ce soir.
Salut à tous.
Je vais remercier Ch'ti.
Salut.
Je remercie Fabien, tu restes avec nous?
Bah ouais, je vais rester avec vous.
Bah nickel. Je remercie Valentin aussi, avec qui on avait des problèmes de connexion. Et j'accueille Marvolo et Alvesia. Salut vous deux.
Et bonsoir à tous.
Ah, on est heureux de re-entendre ta voix, Marvolo. Surtout que tu as vu un classico dont on pouvait prévoir le score.
Oui, mais ça a été un match ça a pas vraiment été ce qu'on attendait. Donc alors, on va commencer rapidement comme d'hab. Donc victoire 2-0 du Barça. Des buts marqués par Samuel Eto'o et Lionel Messi. Mais sinon, ça a été un match qui a tardé le résultat a très longtemps, les Barcelonais ont très longtemps tardé à marquer leur premier but, vu qu'ils le marquent à la 83e, il me semble, sur une action assez, c'est vraiment un but type Ligue 1, quoi. Hein, c'est coup de pied arrêté, elle rebondit sur 14 joueurs avant d'entrer. Et le deuxième but, par contre, un peu plus joli, même s'il y a une grossière erreur de Cannavaro. Donc, c'est un ballon en profondeur. C'était un contre-attaque très rapidement mené par Thierry Henry, qui donne pour Léo Messi, qui lobe Casillas. Et là, Cannavaro nous fait admirer.
Très, très grande classe, quand même, de Léo Messi. Hein.
Ouais, ça, c'est clair. De toute façon, que ce soit le geste de
Léo Messi. Quand c'est des Argentins, de toute façon, ça peut être que la classe, hein, Marvel.
Gabi Heinze. Il y a un certain Argentin, ouais. D'ailleurs, je pense qu'avec Gabi Heinze, le score était plus large aujourd'hui. Non, mais voilà. Pour conclure un peu l'action du.
Et avec Marcello.
Marcello, encore pire. C'est Henri qui donne dans l'ouverture pour Messi, qui lobe Casillas, et là, Cannavaro nous fait admirer toute sa technique en mettant une reprise de volée plein de cartes. Ouais, un truc magnifique, quoi.
Mange le poteau, au passage.
C'est exactement ça. Donc voilà, mais sinon, pour rentrer un peu plus dans les détails du match.
Doucement, sur Cannavaro.
Cannavaro, il a pas été le plus mauvais, hein, franchement. Mais par contre. On a quand même vu Juan de Ramos qui a fait du Pablo Correa. Donc il a
construit option béton.
Comme il dit Correa, il a construit un mur. Je pourrais même dire que là, Juan de Ramos a construit deux murs. Parce qu'on a eu d'abord le mur des défenseurs et un autre mur au milieu de terrain. Ils n'ont jamais essayé d'attaquer, sauf à part 2-3 actions. Ils ont eu aussi la malchance d'avoir la blessure de Wesley Sneijder qui s'est blessé dès la demi-heure de jeu, remplacé par Palanca qui m'aura bien fait rigoler ce joueur-là.
Juste un petit truc juste pour expliciter tes propos, Marvolo. Je voudrais juste rappeler à nos auditeurs que la possession de balle c'était de 65-35, ce qui est énorme dans un classico.
Ah mais c'était une énorme domination du Barça. Alors le Barça avait le ballon tout le temps, le seul moment où le Real pouvait prétendre à aller vers le but de Valdés, c'était dans les quelques... il y en a eu pas mal des grosses imprécisions des joueurs du Barça, que ce soit Messi, que ce soit Alves, que ce soit même Marquez, Puyol. Il y a eu pas mal de passes loupées, jamais le Real parvenait à développer une action ensuite. Et j'aimerais juste un peu réagir par rapport aux deux moules de Pablo Correa mis par Juan de Ramos. Ça a quand même presque marché, sa tactique de Juan de Ramos pour obtenir un nul. Les joueurs du Barça avaient quand même énormément de mal à passer les lignes. La position de balle a quand même été pas mal explicité par le fait que les joueurs trouvaient pas le chemin pour passer. Même un Léo Messi qui est normalement peu transversé à peu près toutes les défenses d'Europe avait du mal à passer même une ligne. C'est dire le mur presque en béton armé qui a finalement fini par céder sur un but de Lille, comme l'a dit Marvolo. Mais c'est clair que Juan de Ramos était venu là pour chercher un gros bon 0-0. Qui très très logiquement s'est muté en 2-0 qui en aurait bien pu être 5-0 vu la demi-nation catalane.
Oui, mais tout à l'heure, par exemple, tu parlais de Messi. Que ce soit Messi comme Henry et compagnie, il ne faut pas oublier un truc. Déjà, on lui a collé un Sergio Ramos, qui, donc côté gauche, qui avait pour consigne exclusive sur ce match-là de ne pas monter. D'ailleurs, c'est, je crois, le seul match que j'ai pu voir de Sergio Ramos, en comptant les matchs où il joue en défenseur central, où il a quasiment jamais dépassé le rond central. Donc d'une part, et deuxièmement, blague à part, les deux murs en question, c'était quand même... Donc au choix, c'était soit les deux murs, soit c'était la tactique lyonnaise contre Manchester, donc avec deux latéraux, parce que Drenthe a joué quand même pas très très haut, Palanca, même chose, il a joué très bas, et de toute façon, on a bien vu que le Real Madrid n'avait pas trop de... Ils n'avaient même pas envie d'aller chercher le but, même si, comme je ne sais pas si tu en as pas encore parlé, mais Palanca, justement, il a eu une action énorme.
Ah, on super buteur, quand même.
Avec un hold-up parfait qui, moi, personnellement, m'aurait donné envie, comme je le dis souvent, de m'arracher les couilles et de me le mettre dans le cul.
Ah, mais c'est sûr que Valdez a, dans ce match, deux arrêts à faire. Il a fait les deux parfaitement, notamment contre Drenthe ou Drenthe, quand même. Seul face à Valdez, il n'y a personne devant lui, il y a seulement Valdez. Il arrive à... Non, il a place, à mon avis, justement, mais Valdez se descend très vite au sol, mais il avait l'occasion... parfaite du hold-up, même si c'était que la 40e minute, ça fait erreur, voilà.
Mais comme tu as dit, c'était Drenthe, hein. Faut peut-être pas trop en demander à ce joueur-là, qui, au passage, c'est quand même un des joueurs les plus surcotés que j'ai pu voir, parce que ce soit... donc, tu vois, je vais juste prendre le micro-cos à mon niveau, si tu veux, alors que ce soit la sexta, donc les commentateurs plutôt du match, où les gens avec qui je regardais, ils étaient tous là en train de m'expliquer que Drenthe, il avait un énorme potentiel physique, il avait un énorme potentiel technique, tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire deux choses. Alors, un, c'est pas parce qu'un joueur est bon à l'euro, déjà l'euro, hein, on est d'accord, l'euro des moins de 19 ou moins de 20, que c'est un bon joueur. Et deuxièmement, moi, un mec qui me parle de potentiel physique et qui tombe à chaque petite poussée, alors ça, c'était vraiment marrant d'ailleurs, c'est la réputation qu'il a, il passe plus de temps au sol que debout. C'est très simple, à la moindre petit coup d'épaule, il est à terre en train de chialer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ça, Elvesia, en fin de match, il tombe, il voit que les défenseurs du Barça se retirent et il essaie de se relever rapidement. Ouais. C'était à la limite du pathétique, mais bon, comme je dis, c'est Drenthe, hein, faut pas
quand
rien
même,
attendre.
Sa grosse action, il a tenté le coup en finesse, mais je pense s'il tentait le coup en force, il y avait 2-3 pigeons aussi de Barcelone qui n'était plus en vie à ce moment-là. Enfin.
Donc, Gigi, tu voulais dire quelque chose ?
Ouais, non, sur Drenthe, je te trouve un peu dur, même si c'est vrai que sur le face-à-face, il se précipite, et ça montre bien qu'il n'est pas en confiance. Mais franchement, sur les 35, voire sur la première mi-temps, c'est le seul mec qui provoquait un peu du côté du Real de Madrid. Bon, ok, il avait le ballon, mais c'est le seul mec qui apportait le danger du côté du Real, quoi. Parce qu'à part ça, le Real était inexistant. Donc après, lui taper dessus, ok, parce que bon, il a été maladroit sur le truc de finir, mais il a quand même le mérite d'avoir tenté des trucs, de s'être démarqué, de s'être créé le...
Je suis pas d'accord avec ce que tu dis pour une raison très simple. Alors, sur le constat que tu fais, en tant que tel, on est d'accord, quoi. Tu as complètement raison, mais n'oublie pas un truc. D'abord, on a vu que les consignes de Juan de Ramos étaient très très défensives. On a vu un Raúl et Gonzalo Higuaín qui ont joué à la limite du milieu, avec comme seul joueur quasiment libre de faire ce qu'il voulait, c'était Drenthe. Donc à partir de là, c'est quand même plus facile pour lui d'être dangereux, d'essayer d'attaquer, de faire des choses, quoi. Quand tu demandes à un joueur de ne pas monter, on a vu l'exemple, hein, de Schneider, même s'il n'est pas resté longtemps sur le terrain, il jouait très très bas, quoi. C'était impressionnant. Après, tu me dis, je suis peut-être dur avec lui. Non, moi je pense que tu vois pas autant de matchs du Real que moi, parce que si tu veux, je te recommande de voir un Bate Borisov Real Madrid, et là je peux te promettre que Drenthe, c'est pas... Tu vas vraiment avoir envie de lui taper dessus, même de créer une émission spéciale juste pour l'insulter, tu sais.
Donc voilà. Mais là, tu vois, on parle du match de Drenthe ce soir. Donc Drenthe ce soir.
Non, mais moi,
Ah ouais, non, mais ça, je doute pas. J'ai lu des trucs sur Drenthe, comme quoi, c'est clair qu'il décevait beaucoup, voire même un peu pire, on va dire. Mais ce soir, bah, c'est quand même lui, il a le mérite d'avoir tenté des choses et d'avoir essayé d'apporter le danger en tout cas. Et
mais
voilà,
non, quoi. Justement, parce que tu tiens pas en compte, c'est ce que je t'ai dit, l'élément des consignes tactiques. Bah, Juan de Ramos, il a très clairement dit à Raoul et à Higuaín de rester en retrait. Donc si tu veux, mais il jouait parfois, et même plus que parfois, la majorité du temps, il jouait même derrière Drenthe. Je sais pas si tu as qu'à revoir les actions, tu vois plus.
Drenthe, je crois que c'est le seul qui n'a pas respecté la consigne de Juan de Ramos. Hein,
c'est bien ce que je disais dans la mesure où lui, il avait une liberté offensive supérieure à celle des autres, c'est normal qu'il attaque plus. Tu sais, tu fais la même avec Zaire ou n'importe quel quiche qui est passé en Ligue 1, tu vas avoir le même résultat. C'est lui qui va le plus attaquer. Mais après, on voit bien ce que ça donne. Il a passé combien de fois son vis-à-vis de Drenthe? Je crois que je l'ai vu dribbler deux fois, alors qu'il a dû le tenter une quinzaine de fois au minimum. C'est très insuffisant pour un mec qui joue tout le temps. Et puis, en plus, c'est ça que je comprends pas. Tu me parles de confiance, dire qu'il n'est pas en confiance. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux qu'on lui fasse des gâteries à la mi-temps? Parce que ce gars-là, je te rappelle qu'il joue quasiment tout le temps, vu que c'est le super.
Bon, on appellera Roméo pour lui faire des gâteries.
Ouais, en plus, il aime bien. Non, mais le truc, c'est que si tu veux, voilà, Robben, comme je l'avais déjà expliqué, tu vois, c'est le seul joueur vertical. C'est l'expression qu'on utilise en Espagne ici pour dire que c'est le mec qui va bien étirer les défenses pour créer des espaces pour les autres attaquants. À partir du moment où Robben n'est pas là, c'est Drenthe. Et c'est toujours Drenthe qui le remplace parce qu'on a bien vu que Van der Vaart, ça ne le faisait pas. Donc à partir du moment, sur le dernier mois ou les deux derniers mois de compétition, vu que Robben a quasiment tout le temps été blessé, Drenthe a eu un temps de jeu énorme. Donc qu'il soit pas lui en confiance, ok. Mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas la confiance du coach, parce que d'ailleurs, le coach, que ce soit Bernd Schuster ou Juan de Ramos, on voit, c'est pareil, hein, c'est toujours Drenthe qui joue. Moi, franchement, Drenthe, si pour jouer dans un club comme Malaga et compagnie, d'accord, mais au Real Madrid.
Marv, est-ce que tu as senti un peu plus de discipline tactique avec le nouveau entraîneur? Ce que tu nous disais qu'avec Schuster, c'était vraiment du n'importe quoi. C'était les joueurs, par leur amour propre, qui essayaient de gagner un match, c'est tout.
Je sais pas si on peut. Justement, tu vois, par rapport à l'approche tactique du match, je sais pas si c'est judicieux en fait de tirer des conclusions à partir de ce match-là. Parce que on sait que c'était le Barça en face, on sait que si on se livre face au Barça, on rentre à la maison avec le cul en frangipane. Donc, forcément, faut pas attaquer. Donc, si tu veux, moi j'attends de voir la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi, il joue une grosse équipe. Enfin, le prochain match, il joue aussi une grosse équipe. Donc, mais moi, j'attends de les voir, tu vois, contre une équipe un peu plus modeste pour voir si Juan de Ramos, il va pas plutôt faire comme ce qu'il faisait avec Sevilla, donc un jeu avec des transmissions de balles très rapides, avec deux touches de balle.
D'accord. Ouais, oui, tu vois ça comme ça. Une réaction aussi de Ch'ti sur la tactique. Ch'ti qui est toujours avec nous.
Ouais, donc t'avais dit, Marvolo, je sais, Ramos avait demandé à ses attaquants de jouer vraiment assez défensif, de revenir vraiment à la limite du milieu de terrain. Bah, en même temps, tu dis qu'il ne faut pas jouer trop offensif. En même temps, replier comme ça, c'est un peu offrir ce que le Barça veut, c'est-à-dire que le Real s'accule eux-mêmes sur leur propre but. Et là encore, c'est expose et ça revient pratiquement au même.
Non, pas vraiment. La différence entre ce que veut le Barça et ce qu'a fait le Real Madrid, c'est que si tu veux, le Barça, ils sont bons surtout dans les phases de contre, tu sais, où toi, tu attaques et donc ils récupèrent la balle et avec leurs trois flèches, plus le soutien des
ça fait bizarre d'entendre Henri qualifié de flèche.
Ah, mais la question est au sort.
Ça mais flèche, tu vois, voilà, c'est pour parler. Quand je dis flèche, mine de rien, il est quand même assez rapide. Hein, comme je disais avec GG la dernière fois, taper sur Henri, ça me fait plaisir. Mais quand il n'y a pas de quoi le critiquer, je ne vais pas le critiquer. Sur ces derniers matchs, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur Henri. Hein, aujourd'hui, d'ailleurs, il donne une passe décisive, donc il n'y a pas de quoi vraiment être dur avec lui. Non mais voilà, donc pour revenir à ce que disait Ch'ti Keeper, le truc si tu veux c'est que là où le Barça est vraiment fort, c'est surtout en position de contre. Là, non, c'est pas la même chose parce que justement comme tu dis qu'ils étaient acculés, donc il n'y avait plus d'espace. Alors que le Barça c'est une équipe dévoreuse d'espace, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, les trois flèches. Pardon, j'ai pas entendu.
Non, vas-y, continue.
Hein, parce que alors j'ai entendu un petit écho. Donc voilà quoi, c'est comme j'expliquais, c'est surtout en phase de conf qu'ils sont bons. C'est pas sur les quand tu es à 8 derrière, ils auront moins d'espace et d'ailleurs on l'a bien vu hein, la seule action véritablement à la Barcelonaise, c'est le deuxième but. On les voit, on voit l'autre équipe attaquer, essayer de marquer, et en contre, il les trucide. Donc, moi, je pense que même si il y aura beaucoup de fans qui vont critiquer Juan de Ramos, c'était la meilleure solution, hein, parce qu'il n'a pas l'effectif pour battre le Barça. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'infirmerie du Real Madrid est plus que remplie. Hein.
Et surtout, j'aurais bien aimé encore ajouter un petit truc par rapport à ce que dit le keeper. C'est le fait que oui, le Real était extrêmement défensif. Il faut savoir aussi que le Barça a tenté de chercher les espaces, justement comme Marvel a dit, c'est ce qu'il cherche avant tout. Et c'était quasiment impossible d'en trouver. Ils avaient à chaque fois 8 joueurs en phase 2, qui partent à droite, à gauche, au centre, c'était la même chose. À chaque fois, ils passaient une ligne, mais il y avait un joueur qui interceptait derrière. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour le Barça, même l'exploit individuel était compliqué, donc... ils ont très souvent tenté de loin, des centres de loin, et ça a marché en apportant notamment un corner à un moment, et qui apporte le but. Après, le deuxième but, c'est surtout le Real qui tente d'aller marquer en contre avec les énormes espaces qu'avaient Henry et Messi. C'était pas bien dur pour eux de marquer ce but. La tactique du Real a quand même failli marcher. Et Juan de Ramos a quand même essayé de renforcer encore plus son équipe avec le temps, en notamment sortant un Guti en remplaçant par Ravi Garcia, qui a quand même été très très défensif aussi. Il a clairement tenté de conserver ce score pendant un bon bout de temps. Bon, c'est très le fait quand même que Eto'o ouvre le score, mais il faut quand même pas oublier que 10 minutes avant, il loupe un penalty que très très mal tiré. Et j'ai presque failli croire que le Barça finalement n'y arriverait jamais. Tant le Real était extrêmement regroupé, de tous les côtés, qui décalait à chaque fois vers le porteur du ballon, et ça offrait zéro espace au Barça.
Alors que Dizzy vient de nous rejoindre, on ramène toute l'Europe pour le grand classico. Salut Dizzy.
Salut, salut.
Où est Marv?
Non, non, et puis de toute façon, il a complètement raison sur ce qu'il vient de dire, surtout que, comme il l'a expliqué, Eto'o a raté un pénalty, et c'est 5 minutes après qu'il y a l'énorme occasion de Palanca qui se retrouve face au gardien. Donc ça aurait pu faire vraiment très mal, et ça aurait été franchement pas mérité. Et puis moi, les coachs défensifs, je pense que j'en ai suffisamment parlé, parce que les voir remporter les matchs, c'est horrible.
Faut pas que tu regardes la Ligue 1 et Nancy, alors Marvolo. Une question de Hugo pour toi, Marv.
Ah, c'est pas vraiment une question, mais j'ai trouvé qu'il y avait un plan anti-Messi, tu vois. Puisque Juan de Ramos sait que la plupart des buts viennent de Messi. Et que Messi, c'est un peu un joueur en carton, qui se blesse assez facilement. T'as pas remarqué qu'ils ont essayé de le blesser, surtout par Sergio Ramos et Drenthe, je crois.
Ah, mais le match d'aujourd'hui était quand même très, très, très haché. Il y avait, comme tu l'as dit, clairement un plan anti-Messi avec Sergio Ramos à gauche qui a joué, comme on l'a déjà dit au début, très, très, très défensivement, qui faisait tout pour le bloquer. D'ailleurs, en raconte, il est très rarement passé.
C'était la première fois qu'il jouait à gauche, Ramos.
Ouais, il n'a pas souvent joué à gauche, Ramos. Hein. C'était à Séville. Je crois qu'il avait joué quelques matchs, mais c'était vraiment parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais non, effectivement, c'est pas son poste de prédilection.
Lors d'un classico, c'était quand même osé de faire ça, quoi.
Bah, en même temps, lors d'un classico, on avait Drenthe, Metzelder et Salgado. Donc ça montre bien qu'il y a un souci à Madrid.
Bah surtout quand tu vois que Van der Vaart est sur le... Bah je reparlerai tout à l'heure justement, vas-y finis.
Comme je disais, le match a quand même été très très haché. Après 40 minutes, le Real avait déjà 3 cartons pour eux, donc Metzelder, Ramos et Drenthe. Faut dire que quand même, il y avait clairement peut-être pas un plan pour tenter de blesser un joueur, parce que même c'était de l'anti-Messi, de l'anti-Eto'o aussi en même temps. Le Real a joué très 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 physique pour parce qu'ils n'avaient pas grand chose à faire tactiquement, ils ont essayé de se comporter bien, mais il y avait des moments où ils étaient quand même un peu déroutés. Les seules choses à faire c'était de créer le foot.
Ok. Une question aussi de Fiti encore.
Ouais, ben c'était d'ailleurs pour ça que Ramos avait été mis à la gauche juste pour contrer Messi. D'ailleurs, ça s'est vu, le placement de Drent au milieu. Déjà qu'en arrière gauche, il n'y a pas l'air terrible. Alors en milieu gauche, je sais pas voir ça. Ben on a des statistiques en fait qui montrent parfaitement la situation actuelle des deux équipes. Hein. Barcelone qui se retrouve et Madrid, je veux pas dire au fond du gouffre parce qu'il reste quand même en haut, mais voilà, c'est pas ça.
Ok. non mais c'est de toute façon, c'est franchement le souci, tu vois, c'est sur qu'on va avoir, tu sais, beaucoup de réactions de fans qui ne réfléchissent pas et qui vont dire: ouais, Juan de Ramos, c'est un coach trop défensif, ceci, cela. Non, je parlais pas de Titi au cas où il y aurait mal entendu, non. Mais le truc, c'est que, franchement, il a fait ce qu'il pouvait. Franchement, je suis le dernier qui va vouloir défendre un coach du Real ou du Barça, mais au vu de l'effectif, c'était vraiment ce qu'il pouvait rien faire de plus. Et voilà, ça a donné un match Ligue 1, mine de rien. Hein. Et c'est dommage pour un classico.
Mais justement, tu dis Marvolo, il peut rien faire de plus. Mais quand je vois un type comme Van der Vaart sur le banc, c'est quand même assez incompréhensible.
D'accord. Van der Vaart. Non, mais tu as raison d'en parler, mais Van der Vaart dans l'équipe, alors, tu le mets où? Drenthe côté gauche, au milieu, Schneider à droite, et en attaque, Higuain, Raoul.
Alors, soit... J'enlève soit Higuain, soit Raoul, et je mets un soutien qui est Van der Vaart, soit je mets...
Qui marque, si. C'est qu'un défenseur de plus, hein, quand tu mets ça, à mon avis. Sur le terrain, on aurait vu un défenseur en plus. D'ailleurs, Higuain et Raoul étaient même pas des attaquants, enfin, c'était des défenseurs très avancés, c'est avant tout.
Ou je remplaçais Guti par Van der Vaart. Moi, personnellement, je pense que...
Et là, tu te faisais niquer au milieu de terrain, complètement.
Et à gauche, qu'est-ce qu'il vaut Van der Vaart? Il a déjà été essayé sur le
joueur
de gauche.
C'est pas un joueur de côté. Marv l'a dit avant, on a essayé. Van der Vaart a déjà été essayé à gauche. Ça n'a pas donné grand-chose. Et c'est pour ça que Drenthe jouait. Mais Van der Vaart, c'est plus un joueur d'axe, que ce soit en attaque, en offensive ou en 10. Mais c'est faux. Il y avait rien, vraiment rien d'autre à faire. Van der Vaart, tu pouvais pas le mettre sur le terrain aujourd'hui.
Et quand il y a Diarra, est-ce qu'il peut être aligné à côté de lui au milieu de terrain? Parce que Diarra, c'est...
Juste un truc, Diarra, ça ne sert à rien d'en parler, il est blessé jusqu'à la fin de saison, donc...
Ouais,
Diarra, non, déjà...
D'accord, mais est-ce
que... Ah oui, mais malheureusement, par exemple, si tu veux, oui. Voilà, c'est que ça sert un peu à rien d'en parler, parce que dans la mesure où Diarra ne joue pas, il ne sera pas là toute la
saison. Il ne sert à rien tant que tu es Marvolo.
Non, tu ne sers pas à rien, juste que sur le coup... ça sert à rien en fait de réfléchir à un truc qui arrivera pas. C'est comme si essayer de penser à l'animation offensive de l'OL avec Messi en plus.
non, c'est vrai.
Non, mais le souci, c'est comme ce qu'on sait bien, c'est qu'à Madrid, il y a trois intouchables. Il y en a un au but, un au milieu, un en attaque. Et celui du milieu, pour pas le nommer, mais qui a des fausses airs d'homosexuel.
Ah, parce que
celui-là, il fait un bon match sur 8. Il fait un bon match sur 8 et il est, si vous voulez, le joueur qui pourrait le plus céder sa place, à mon sens, à Van der Vaart. Mais après, il faudra un système de jeu un peu différent. Il faudra tenter Schneider dans une position nettement plus reculée pour le mettre lui, en sachant que le Real Madrid, c'est, si vous voulez, la culture du Real Madrid des dernières années, c'est du 4-2-1-1-2. Alors, je la développe, c'est 4 défenseurs, 2 pivots au centre, un joueur plus ou moins sur le côté gauche, un autre joueur complètement, enfin plus ou moins sur le côté droit, un joueur complètement sur le côté gauche et deux attaquants. Donc c'est une tactique de merde déjà, parce qu'on a bien vu qu'on peut pas attaquer que sur un côté. Et ça, c'était même à l'époque où on pouvait faire jouer et Robinho et Robben. Donc déjà, ça donnait une tactique assez nulle. Alors maintenant, quand on a la même avec Palanca et Drenthe, ben voilà, faut pas chercher mon émerveil. Mais c'est sûr que je sais pas, moi je comprends pas parce que à la limite le Barça, voilà, ils ont la philosophie du 4-3-3, ils ont quasiment toujours joué en 4-3-3.
Justement, ouais, c'est,
mais
ce,
moi,
que
c'est...
Ce que je
voulais. Ça, c'est pas vraiment la culture du Real, hein. Le Real n'a pas toujours joué comme ça. Et là, on se retrouve avec une équipe complètement minable, nulle, bien digne de la Ligue 1. Et franchement, moi, cette équipe-là du Real Madrid, elle fait peur à personne, hein.
Non, mais justement, ce que je voulais dire, l'histoire, la philosophie du 4-3-3, parce que quand on avait vu l'an passé l'histoire des 4 fantastiques, on avait bien dû rigoler en lisant ça. Mais quand on avait entendu ça, on pouvait penser que le schéma de jeu serait enfin révolutionné du côté du Barça, et finalement non, et on en revient à cette fameuse tactique avec un Henry qui ferme sa gueule et qui joue bien sur le côté gauche, et un Messi qui est évidemment indiscutable sur le côté droit. Est-ce que le Real ne s'est peut-être pas trop, n'a pas trop voulu contrer justement cette tactique-là ce soir, plus que d'essayer de jouer?
Bah, le Real Madrid a tout simplement essayé de contrer, hein, que ce soit cette tactique-là ou quoi que ce soit, c'était contrer et défendre. Donc non, mais c'est ça le souci, c'est que
six cartons
faut pas oublier que
le Real, ce soir.
Ouais, mais voilà, c'est clair. Non, mais de toute façon, à Juan de Ramos, malheureusement, on peut pas encore trop lui demander parce que les joueurs, il les connaît pas encore, il sait pas qui vaut quoi, qui utiliser à quel poste. C'est un peu ça le souci parce que même si voilà, les joueurs du Real Madrid, c'est quand même tous des joueurs plus ou moins connus, on les connaît tous, mais malheureusement, c'est toujours compliqué d'arriver et de préparer un match le lendemain pour le lendemain, et puis ensuite, 5 jours après, jouer la meilleure équipe d'Europe. C'est pas parce que mine de rien, cette équipe du Barça, même contre une équipe ultra défensive du Real, ils en mettent deux, hein. Donc mine de rien, c'est quand même fort ce qu'ils ont fait.
Ok, Marv. Une petite réaction de Hugo.
Ouais, bah moi je trouve que la tactique du Real faudrait vraiment la changer, surtout avec l'arrivée de Huntelaar qui est vraiment un buteur mais merveilleux. À l'Ajax, ça a fait des merveilles, je crois qu'il avait marqué 40 buts la saison passée ou une chose comme ça. Et bon, on pourra bien remplacer
33,
Raoul.
Il me semble.
33.
Bah, il en a marqué, ouais, je crois qu'il a marqué 35, sa meilleure saison, il avait mis
32.
Voilà, c'est ça, 32 buts, un truc comme ça.
Et Van Nistelrooy, il en est jusqu'à
la fin de la saison. Il en est à l'année prochaine.
Ouais, lui aussi.
Lui comme Diarra, d'accord.
Super des Diarra et non, donc Hugo, le truc c'est que si tu veux, si la compo, elle a pas changé pour des Ronaldo, pour Van Nistelrooy, je vois pas pourquoi elle changerait pour Huntelaar. Et moi je le disais, ce joueur-là, moi je vais attendre un peu de voir parce que bon, c'est le championnat d'Hollande, hein, faut pas s'emballer, hein. À mon avis, ceux qui me disent, moi, le truc c'est que
Griezmann était très fort
raison
dans le championnat de l'Hollande.
Voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais fait la semaine dernière. J'avais dit, ben voilà, on peut avoir un Van Nistelrooy ou un Griezmann. Non, mais le truc c'est que tu vois, tu peux avoir raison et je peux avoir tort. Mais moi, je préfère juste être un peu plus sceptique parce que faut voir un peu. Il va falloir s'adapter, il va falloir faire un sacré saut de qualité parce que c'est pas la même chose. Moi, je vois les. De toute façon, c'est juste un truc tout simple. Tu vois les vidéos de Huntelaar sur YouTube et toutes les vidéos un peu assez pourries dessus. Et tu vois que le mec, il marque toujours le troisième but, le quatrième but. Donc déjà ça montre que les défenses, c'est pas ça. Et puis bon, moi j'attends de le voir, tu sais, dans un contexte autrement plus dur, parce que là, il y aura énormément de pression, hein.
Justement, parlant de pression, est-ce que il y avait on reproche souvent les ambiances au New Camp, là il y avait une grosse ambiance ce soir.
Bah, le New Camp, malheureusement, il n'y a pas vraiment de grosse je sais pas si c'est, vous le savez pas en France, mais le New Camp, c'est pas ce qui se fait de mieux au niveau de l'ambiance en Espagne, hein, même
ouais,
loin de là.
Oui, c'est ça, mais est-ce que ce
c'est
soir...
C'est un stade assez calme, hein.
À ce point-là.
Ouais, non. Moi, tu sais, je fais partie un peu de ceux des nostalgiques des premiers Real Barça qu'on avait pu voir, nous, à l'époque où on commençait à connaître le foot, où on était super excités de regarder c'était
une
époque
petite voix fluette, Marvolo.
Voilà, avec une petite voix à la Roméo, tu sais. Et voilà, où il n'y avait pas autant de diffusion, donc on les voyait une fois de temps en temps. Et là où on voyait un Real Barça, c'était une tuerie sur le terrain, c'était pas des copains. Là, moi, avant le match, ça me fait toujours marrer. Comment il s'appelle, Dani Alves, qui va faire la bise à Juan de Ramos avant, qui va faire la bise à son adjoint aussi. Ah quoi, c'est... Ça ne peut pas. Ça me manque, moi, cette époque-là, parce que l'époque des bisounours...
Enfin, Dizzy s'apprête à parler. Attention, je laisse.
Voilà, voilà, je me permets de prendre la parole. J'espère que la question a été... J'espère que la question n'a pas été posée. J'avais une question pour mon petit Marvolo d'amour.
Grand Marvolo, sinon c'est une incorrection anatomique.
Ah mais faut arrêter, ce que vous voyez maintenant.
D'accord. Bref, est-ce que tu considères, parce que bon, je vais me focaliser un peu sur l'ancien entraîneur du Real, Bernstorff, est-ce que tu considères que le licenciement est légitime? Bon, ça t'aura sans doute pas de mal à y répondre, mais est-ce que tu crois que c'est une bonne chose et est-ce que tu crois que le Real va repartir de l'avant maintenant?
Moi, oui. Moi, de toute façon, Schuster, j'en pouvais plus. Il y a une chose que je ne peux pas supporter dans le foot, c'est l'arrogance. Donc, quand tu es mauvais et qu'en plus, tu es arrogant, ça ne marche pas.
Raymond Domenech donc...
Ouais. Exactement. Oh, alors lui. Alors lui. Non, mais franchement, il y a des fois où
parle
il...
de Real Barça,
il est pareil. Hein.
Je parle de Domenech.
Excusez-moi. Excusez-moi.
Sinon, Citypark va nous parler de Miralas, on va pas s'en sortir. Non, mais sérieusement, le truc c'est que mais plus sérieusement, le truc c'est qu'il nous a sorti des jolies perles, l'ami Schuster. Alors avec les, il y a des fêtes qui font mal et d'autres qui le font pas mal. Aujourd'hui, on a perdu 3-1, mais ça me fait pas mal. Je sais pas, apparemment, il a une insensibilité quelque part. Sinon, il y a aussi sa cultissime. Je ne réponds pas à cette question parce que je pense que je ne mérite pas cette question.
Ah ouais.
Non, mais sérieusement, moi je pense que c'est bien parce qu'il récupère un coach, même si c'est pas un énorme coach espagnol, c'est un assez bon coach qui connaît quand même bien la Liga. Et surtout, il a signé que 6 mois. Donc ça veut dire que s'il fait mal son travail, il est tout simplement viré. Donc à mon avis, oui, c'est une bonne idée parce que de toute façon, avec Schuster, ça marchait plus. Et on a bien vu que c'est quand même un mec qui sait pas trop gérer la pression.
Et pourquoi vous avez pas gardé Capello? Franchement, je vous le demande.
Ne me voyez pas.
Oui, je ne te. Je ne t'intègre pas.
Non, je sais bien, c'était pour aussi ma façon à moi de me démarquer du vous parce que je veux absolument pas être.
Intégré comme un Madrid.
Ouais. Bah, c'est un mystère. Hein. Quand on a un meilleur coach du monde et qu'on prend Schuster. Voilà quoi.
C'est sûr, oui.
Non, ça arrive des choses comme ça.
Moi, le jeu n'était pas beau avec Capello, mais il gagnait, et il gagnait nettement, on va dire, et il se fait licencier. L'année dernière, le jeu n'est pas beau avec Schuster, mais il ne se fait pas licencier.
Non, il était un peu plus beau, il faut l'avouer. Mais après, il n'était pas terrible, et puis...
En termes d'efficacité.
Ouais. Non, mais bon, il y a...
Vas-y,
c'est des choses comme ça à Madrid qu'on ne comprend pas et qu'on a un peu de mal à...
Vas-y.
Par contre, là où Juan de Ramos pourrait faire du bien, c'est qu'il va arriver avec un médecin dont malheureusement j'ai oublié le nom, qui est très connu parce qu'il va faire, il va leur proposer un plan de diététique personnalisé, tout ça. Et on avait vu que ça réussissait bien aux joueurs du Sevilla, qui se blessaient rarement, qui étaient très souvent au top. Et ça, pour le Real Madrid, c'est pas du luxe. Hein.
Ok. Vas-y, Fillon, t'a fait attendre. Là, il doit être gelé derrière son micro dans le froid du Nord. Vas-y, pose ta question.
Ouais. Donc bon, on a compris qu'il y avait des joueurs plus que remplaçables là dans le 11 qui avait été aligné par le Real Madrid. Mais est-ce que là dans les réserves du Real, est-ce qu'il y a des joueurs qui auraient vraiment pu être alignés à la place? Bon, en sachant que l'infirmerie est assez remplie, que Van Nistelrooy dira en ont jusqu'à la fin de la saison, qu'il y avait aussi de la Red, bon, que son problème cardiaque s'est litigé. Torres, Pepe, Heinze, Robben et Marcelo qui étaient absents, blessés, suspendus. Est-ce que parmi l'un d'eux, tu verrais quelqu'un qui aurait le profil pour vraiment remplacer un de ceux qui avaient été alignés ce jour-là? Et vu que le mercato approche à grands pas, est-ce qu'il y a des rumeurs de transfert à propos d'un joueur ayant le profil susceptible de convenir à un poste qui fait défaut au Real Madrid?
Eh ben non, exactement. C'est la politique du Real Madrid, tu sais. Quand on sait que la défense est nulle, on va acheter en attaque. Quand on sait que l'attaque est nulle, on va acheter en défense. Et ouais. Ça, c'est un peu pareil. Donc,
là, c'est les côtés que tu dis qu'il faut vraiment...
Il faut prendre un ailier, ça c'est clair et net.
Palenka.
Donc tu...
David Silva, non, je sais pas.
Oh, ouais, Silva, il est trop attaché. Ronaldo, faut pas rêver.
Non, mais non, il faut pas non plus. Mais Silva, ouais, tu peux pas.
Je pense pas non plus, parce que le problème, c'est que le président de. Le truc, c'est qu'il faut savoir ce que veut dire le président de Valence. Est-ce qu'il fait ça pour faire monter les enchères en disant qu'il veut pas le vendre, ou alors s'il veut vraiment pas le vendre? Mais c'est sûr que Silva, c'est le joueur qui correspond le mieux, je pense, qui est le plus abordable. Enfin, le plus abordable, le plus facile. L'opération peut être abordable, parce que sinon, c'est difficile de recruter maintenant. Il faut prendre un mec. Les joueurs qui veulent Real Madrid, c'est ce qu'ils appellent ici des RASP. Donc, ça, je vous donne pas l'expression en espagnol, mais ça veut dire des jeunes, mais plus que préparés.
Insulte-nous pas en espagnol, parce qu'on comprend pas, Marvolo.
Ouais. Et puis... c'est dommage, vous n'écouterez pas mon magnifique accent. Non, mais plus sérieusement, le truc, c'est surtout qu'ils veulent, en fait, ils cherchent à Madrid, ils cherchent des Pokémon, hein. Parce qu'ils cherchent des gars jeunes, mais qui ont une grosse expérience, qui coûtent pas cher, qui peuvent jouer à la Ligue des Champions. Ils vont pas trouver ça. Mais par contre, par rapport à la première partie de la question de Ch'ti, où il disait qu'il n'y avait pas un joueur qui... Oui, il y a un joueur qui aurait pu s'il n'avait pas deux neurones, c'est Robben. Parce que se faire expulser un match avant, c'est pour moi la faute professionnelle, franchement.
Alors qu'il vient de toucher le poteau deux minutes avant et qu'il peut faire le 3-2.
Ouais, c'est ça. Ouh, non, mais il est c'est un abruti, quoi. Il y a pas de. Quand on a un carton jaune et qu'on va dire à l'arbitre, fais-toi de la sexualité tout seul, c'est pas terrible, quoi. Donc, Ouais, l'expression c'est fuck you. Mais bref, moi, à mon avis, c'est pas ce que tu dis dans un match à 3 partout. Bref, il s'est fait expulser bêtement. Et du coup, le Real Madrid avait perdu toute chance de gagner ce match-là.
Ok, Marv.
Et juste,
vas-y,
Romolo, Palenka, là, qui est rentré. C'était pas son premier match en équipe première, par hasard?
Palenka, si je dis pas de bêtises, il a joué à l'Espagnol avant, il me semble. Je sais pas s'il a joué contre l'Espagnol ou il a joué... à l'Espagnol, c'est une stat que j'avais pu apercevoir en cours de match, mais non, donc c'est pas son premier match en Liga.
Parce que j'ai cru voir sur le site du Real que cette année il avait joué quand même 11 matchs en réserve.
Ouais, c'est la réserve. On voit bien que voilà, c'est la réserve et puis 11 matchs, hein. Donc c'est même pas un titulaire indiscutable en réserve. Hein.
Ouais, d'accord.
C'est un peu le niveau du bestiau.
Ouais, justement, sur Barcelone, j'aimerais bien, parce qu'on n'en a pas encore trop parlé, j'aimerais bien que tu me dises, Marvolo, si ce soir, parce qu'ils n'ont peut-être pas été non plus comme tu nous en as parlé à un moment où ils étaient vraiment sur les toits de l'Europe, est-ce que ce soir ils ne sont pas un peu reposés sur les individualités plus que sur le collectif qui était visuellement très très beau à voir jouer quand ils mettaient des 6-1 à l'Atlético où j'avais vu le match?
Je pense surtout vraiment... qu'aujourd'hui ils ont joué contre une équipe de Ligue 1, donc.
Oui, ça facilitait. Oui,
ils leur ont laissé vraiment aucun espace au niveau de l'agressivité. Ils ont été plus qu'agressifs. Comme il l'avait dit, je vais un peu plus rentrer dans les détails. Au bout de 10 minutes, Messi s'était fait déjà. Il avait été mis au sol 5 fois, il me semble, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 fois. Donc c'est très simple. Hein. Au moindre coup, on l'a envoyé chier. Mais non, à mon avis, c'est pas tant le Barça qui a moins bien joué, plutôt que le Real qui a complètement essayé de détruire le jeu du Barça, quoi. C'était franchement, c'est une équipe qui m'inspire. J'aime pas ce genre d'équipe là qui joue complètement derrière, qui ne veulent pas jouer, qui donne le ballon volontairement à l'autre, quoi. Au cerf, en fait.
6 tirs pour le Real, c'est minable, quoi, dans un match comme ça. 6 tirs dont 3 cadrés.
Ouais, et il faut voir les tirs, hein. C'est souvent des tirs pas très très dangereux, hein. Faut pas croire.
Mais parce que pourtant, il y a Valdés au but en face, il y a moyen de faire quelque chose.
Bah ouais. Sorti quand même quelques arrêts.
C'est un excellent match.
Ah, Casillas. C'est exactement ça, Casillas, c'est Casillas, hein. Ça sert pas sert à rien de faire beaucoup de phrases là-dessus, c'est un très très bon gardien, il l'a montré encore ce soir.
Ah, il y a un moment, il y a une frappe d'étau 20 mètres repoussée et face à Messi qui arrive face à lui et il le repousse encore une deuxième fois. Bon, il y a le penalty, mais le penalty quand même très très mal tiré par Samuel Eto'o. À mi-hauteur, assez centré, donc c'est on n'en demande pas tant à Casillas. Hein. Après, donc Casillas a limité la casse pendant très très longtemps en sortant un très très grand nombre d'arrêts, notamment sur des très belles actions de Samuel Eto'o, de Thierry Henry qui a fait 2-3 trucs intéressants. Ah, même il, Il me semble que si j'ai bien vu ça, en deuxième mi-temps, Eto'o et Thierry Henry ont quand même permuté un moment. Et Henry s'est placé dans l'axe et Eto'o est parti sur la gauche. Il a pas été mauvais. Mais c'est clair que les deux ont fait un très très gros match. Ce soir, la ligne d'attaque a été excellente.
Une réaction de toi, Hugo, sur Barcelone aussi.
Ouais, c'est plus en général, à ton avis, Marvolo, ils ont été bien plus qu'un pas sur le titre ou pour encore attendre un peu?
Ah, faudrait franchement des conditions. Faudrait vraiment des conditions très particulières hein, pour que le Real gagne le titre. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ok, c'est clair.
Pour moi, c'est plutôt le Real, non. Mais est-ce que c'est le Barça va gagner le titre? Est-ce que le Barça va tenir jusqu'au bout et va gagner le titre? Parce que le Real, moi, je vois quand même très très loin.
Bah, le problème, c'est que si vous voulez, là, on a avec les deux matchs d'aujourd'hui, on a Barça premier, Valence deuxième à 8 points, Villarreal à 9 points et Séville à 11 points, en sachant que Villarreal et Séville se jouent demain. Donc on a encore une équipe qui va perdre le titre demain, enfin qui va être définitivement éliminée. Et il va rester donc Valence plus Villarreal ou Séville. Si Villarreal reste, il y aura peut-être un semblant d'intérêt pour la Liga, sinon non. Hein.
Le Barça, il va falloir quand même être très fort pour aller chercher le Barça cette année. Hein. Même si ce soit même en Ligue des Champions ou en Liga. Bon, Liga, ça paraît quand même très... Allant les jouer à presque 90%, c'est au moins 90% de chance que c'est joué. Après, en Ligue des Champions, je vois aussi aller très, très haut.
Sinon, il y a une réaction de Mathias Fernandez qui dit « Drenthe a été catastrophique, ce joueur est vraiment trop surestimé et il le prouve de jour en jour. »
Voilà. Juste, moi, je voulais te poser une question, Marvolo. Où est-ce qu'était placé Gundogan du match?
Milieu de terrain.
À côté de Xavi, en soutien.
C'est la première fois qu'il joue là ou pas?
Non, pas du tout. Il joue quasiment tout le temps au milieu de terrain où il est plutôt bon.
Parce que c'est un 9 de formation quand même.
C'est un 9 de formation, mais il me semble que sa meilleure saison à Chelsea, c'était en numéro 10. Hein.
Pardon? Je croyais que t'allais dire sa mère à Chelsea. Enfin, bon.
Non.
Je croyais que t'allais partir directement.
Mais sa meilleure saison, c'était là où il a joué en numéro 10 à Chelsea. Mais par rapport à ce qu'il disait, à ce que disait donc Helvetia, faut pas oublier que la semaine prochaine, on a Villarreal, Barça. Donc le championnat peut être plié dès la semaine prochaine, quasiment. C'est horrible, hein, on est fin décembre, mais ça me rappelle l'époque du championnat de la République bananière que remportait Lyon. Mais
la République bananière. une petite réaction sur le classement dans sa globalité, Ch'ti.
Ouais, bah, comme oui. Tu l'as dit, peut-être que le championnat risque de se jouer la saison dernière parce qu'on voit, la saison dernière, la saison prochaine. D'accord. Lui, je suis plus étrange. Ouais, donc, on voit une avance de assez nette de 8 points sur Valence qui est deuxième. Villarreal un peu derrière Valence. Ils ont l'air assez distancés, mais, ouais, voilà, ça risque de se jouer. Les deux équipes de Madrid, n'en parlons pas. Il n'y a pratiquement plus aucun espoir. Le Betis Séville de Emana est aussi loin derrière aussi. Également, je vais faire une petite parenthèse sur cette équipe.
Ouais, il joue pas du tout le titre, hein, le Betis, hein, franchement. Non, faut pas du tout les compter pour le titre.
Je pensais en ces derniers temps, enfin ces dernières saisons, je pensais que c'était une équipe qui avait frôlé la relégation et qui petit à petit était bien en revenu.
À 20 points du Barça, donc
ouais.
Ça reste très très loin. Mais bon, même si le Betis va mieux, faut pas non plus, faut pas
partir. Je l'ai dit, je faisais une petite parenthèse pour le classement en général.
Oui, tu fais bien, Ch'ti, à la Génération Soccer. On peut tout faire de toute façon. Regardez, il y a même des types comme Marvolo qui sont à la radio. Imagine. Non, Marv, pour plus sérieusement, je voulais revenir. Est-ce que Leb, qui était indiscutable l'année dernière à Arsenal, l'est tout autant? Enfin, non, on peut pas dire qu'il l'est au Barça. Et pourquoi?
C'est parce qu'il y a mieux, c'est tout. Il est tout simplement meilleur que lui.
À ce point-là, par exemple, quelqu'un comme Henri, je pensais qu'on aurait pu lui prendre sa place sur un côté gauche par un mec comme Leb.
Mais Leb, c'est pas vraiment un ailier, hein, si je dis pas de bêtises. Là, je sais pas,
c'est un meneur de jeu excentré.
Voilà, c'est ça, c'est bien. C'est,
oui, avec deux meneurs de jeu et un attaquant, quoi. C'est ça que vous voulez. Et un mec comme Seydou Keïta aussi, je comprends pas qu'il soit pas titulaire du terrain avec Touré. Je pensais que ça pourrait être très complémentaire et très solide.
C'est pareil, hein, y a mieux. Et puis malheureusement, si tu joues avec les deux, tu enlèves un tripoteur de ballon pour mettre un destructeur. Donc.
Oui. C'est pas ce qui peut.
Parce que c'est ça, si vous voulez, la différence. C'est que malheureusement, quand un Seydou Keïta, faut pas se voiler la face. Hein. Il a fait une très belle saison, sa dernière saison où il était capitaine à Lens, où il a beaucoup marqué et tout, mais. Mais sur les autres saisons, il était plus à la récupération, tout ça. Donc, faut peut-être pas trop lui en demander. C'est un bon remplaçant, un bon joker, mais pas plus. Hein. De là s'imposer dans le 11 type du Barça, c'est quand même un autre niveau. Même si malheureusement, on a les exceptions Valdés, Abidal.
Bah justement, Abidal, ce que je voulais te demander, on l'a tellement pourri, mais pourri, hein, même dans une émission aussi basique que Téléfoot, qui est vraiment une des plus pitoyables en termes de championnat européen. Même là, il se mettait à pourrir Abidal. Comment il est cette saison? Parce qu'on entend d'habitude, on entend souvent parler pour ses conneries. Là, on entend moins parler. C'est peut-être qu'il en fait moins.
Non, le souci, c'est qu'Abidal, en fait, c'est un gars, il n'est pas foncièrement mauvais, mais malheureusement, quand il fait une cagade, on la voit. Hein. Ça veut dire, c'est le genre de mec, il va faire 5 matchs assez corrects, et sur le 6e, il va glisser sur le ballon et offrir un caviar à Villa. Donc après, il va faire une Gérard. Mais Abidal, n'empêche, aujourd'hui, on rigole beaucoup de Palenka, mais il a quand même réussi à le dribbler 2-3 fois. Et Abidal, moi, je suis pas convaincu.
Ils l'ont complètement dérouté avec un 1-2 justement sur la grosse action de.
Sur cette action-là, il se fait. Sur cette action-là, il a montré que tactiquement, il est encore très loin. Hein. Et il y a un joueur sur Raoul, ça sert à rien de venir un deuxième. C'est Raoul, il va pas te prendre de vitesse. Hein.
C'est le Pipo Inzaghi du Real Madrid. Faut pas non plus. Tiens, Rognetto, toi qui parles pas beaucoup du début de la série, est-ce que tu pourrais me parler un peu du remplaçant d'Abidal, Silvinho? Parce que sur le côté gauche, alors autant Barcelone trouve vraiment du bon sur le côté droit avec Daniel Alves, mais sur le côté gauche, Abidal, Silvinho, j'ai entendu parler que c'était vraiment pas ça, on va dire, pour remplacer Abidal, et donc Barcelone, ça serait peut-être le poste à remplacer du côté des Catalans.
Disons qu'au Mercato, on a mis 16 millions d'euros sur Martin Caceres, qu'on compte y faire jouer à ce poste-là. Et a priori, Guardiola ne s'est pas décidé à le faire évoluer, donc latéral gauche. Silvinho, donc ça fait un petit moment qu'il est ici. Il a fait quelques saisons, puis après l'arrivée d'Abidal, il a été sur le banc. L'année dernière, qu'Eric Abidal faisait une saison vraiment pourrie, Rijkaard avait mis Silvinho pour les journées de Liga qui restaient et pour limiter la casse, parce que bon, l'année dernière c'était vraiment la catastrophe, ça en était un peu comme le Real Madrid est actuellement au fond du trou. Et Silvinho, il a marqué un but contre le Shakhtar en Ligue des Champions. Enfin, c'est un latéral, quoi. C'est un joueur qui, même s'il est vieux, même s'il n'est pas toujours très bon dans ses replis défensifs, il reste quand même plutôt bon dans son apport offensif, au niveau centre, combinaison sur le côté. Mais bon, c'est pas avec Silvinho qu'il faut voir l'avenir, loin de là. Ce serait plutôt se pencher sur le cas Caceres qui serait intéressant, puisqu'on a quand même mis 16 bâtons sur lui, 16 millions d'euros, et pour l'instant, on l'a très peu vu. Il a fait trois apparitions où il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été bon non plus. Donc, ça reste une petite énigme du côté du Barça. Donc, quand tu me dis Silvinho, je te dis oui, ça peut être une solution. Abidal a fait deux bons matchs, mais ce soir, il n'a pas été très bon. Comme l'a dit Marvolo, il s'est fait enrhumer par Palenka deux trois reprises. Donc Abidal ne le confirme pas vraiment. confirme pas vraiment les attentes qu'on avait mis en lui.
Voilà. Ouais, mais si tu veux, il y a un truc que t'as dit que j'ai pas trop compris. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai mal écouté, mais Caceres, vous l'avez recruté pour jouer défenseur gauche?
Ben, disons que avec la sélection uruguayenne, il joue à ce poste-là. C'était une option parce que vu qu'on avait repris Piqué en défenseur central, que on avait Marquez, on a Puyol, il y a Milito qui a intervenir. La solution Caceres latéral gauche, elle a déjà été essayée et pour moi c'est soit enfin c'est plus latéral gauche qu'on l'a recruté que pour jouer milieu enfin défenseur central.
Moi si tu veux à mon avis je pensais qu'il avait été recruté plutôt dans une optique de futur parce que c'est un mec qui a un énorme potentiel et puis avec la baisse de régime de Marquez, je me suis dit voilà, c'était plus pour mais c'est sûr que effectivement si on compte sur Martin Caceres pour jouer en latéral gauche, ben on n'est pas rendu parce que déjà à Barcelone les latéraux c'est quasiment des ailiers vu que les ailiers sont des attaquants et alors là c'est sûr que en plus si tu mets Martin Caceres qui est un très très bon central mais en latéral c'est pas ça du tout, si tu le compares en plus à Dani Alves qui là, alors là franchement c'est un autre niveau hein. C'est, je sais pas, je comprends pas trop le, je comprends, si tu veux je comprends pas trop la logique de prendre ce gars là pour le mettre en défenseur gauche, mais bon après c'est sûr que même s'il a déjà joué à ce poste là, on est bien d'accord que quand tu joues en sélection d'Uruguay les gars qui t'as en face c'est pas le top niveau donc
c'est sûr.
Mais un peu un recrutement que je trouve moins bizarre mais après
bah oui dès le départ de toute façon il avait même pas fait une saison pleine avec Villarreal et mettre 16 bâtons là-dedans c'était déjà une énigme à moins que un nouveau recruteur ait vu en lui l'étoile le futur Beckenbauer je comprends toujours pas pourquoi on l'a recruté surtout qu'il joue pas il me semble enfin je l'ai pas en tête mais il me semble que c'était un choix de Guardiola donc pour le moment, il n'a pas l'air de rentrer dans ses plans. Puis bon, même si Abidal n'a pas été super ce soir, c'est sûr que comparé à Van Bronckhorst, ce qu'on a pu connaître les années encore avant, c'est loin d'être à ce niveau-là, mais pour le moment, Abidal.
C'est un peu dur sur Giovanni Van Bronckhorst. Il était pas si mauvais que ça, hein, même s'il y avait mieux.
Ah non, c'est ce que je dis. C'est qu'on est loin d'avoir un latéral à ce niveau-là. Surtout que bon, à l'époque c'était Van Bronckhorst, Ronaldinho sur le côté, ça combinait, c'était magique quoi. On est loin de retrouver ça avec Abidal. Même si il est pas si mauvais que ça depuis le début de saison, c'est pas le Abidal qu'on a pu connaître à son meilleur niveau à Lyon, j'ai envie de dire.
Ouais. Bah, je vais enchaîner un peu sur le message de Fiel Seguidor qui nous écoute. Je vais pas pouvoir le lire entièrement parce que malheureusement tu as posté un truc assez long. Mais je vais revenir sur quelques trucs qui m'ont fait un petit peu rire. Alors premièrement, le Real a perdu, mais dignement. Quand tu t'appelles le Real
Prépare-toi
Madrid...
à mourir, Fiel Seguidor.
Non, pas du tout. J'ai un peu de respect pour les ladies. Le truc c'est que quand tu t'appelles le Real Madrid et que tu passes toute la semaine à nous sortir que en fait le Real Madrid on sort toujours pour gagner un match, on a peur de personne, que tout le monde critique Schuster pour ses déclarations et qu'au final ben on a un résultat pareil quoi hein. Défense à 8, un truc comme ça, c'est moi dignement non, vous avez pas perdu dignement, vous avez fait avec les moyens du bord. Après, on a dit que c'était minable. Oui, parce que le jeu qu'a développé était minable. Mais après, quand elle va un peu en expliquant que c'est une équipe en reconstruction, patati, patata, ça on le sait, on l'a bien expliqué que c'était surtout à ça que était dû ce match-là. Mais après, faut pas tout confondre. Ils ont pas été dignes et ça a été le niveau de jeu a été minable. Après, malheureusement, tu dis que le championnat. Et en me donnant comme exemple le championnat d'il y a 2 ans, Ronieto, je pense qu'il donc ça répond quand même un peu plus à ta question parce que ce championnat-là et Ronieto, je pense qu'il pourra le confirmer, c'était quand même exceptionnel parce que dès que Sevilla par exemple avait les moyens de passer devant le Barça, il perdait et c'était systématique. Quand le Barça avait l'occasion de plier le championnat, ils se sont vautrés. Ils ont permis au Real Madrid de revenir. Quand le Real Madrid pouvait passer devant, ils perdaient. Et puis Sevilla revenait. Et puis, voilà, quoi. C'était une course.
Et l'an passé, Marc, ça a été un peu ça. Ça a été un peu ça avec Villarreal qui n'arrivait jamais à revenir sur le Real. Et tu peux me confirmer que c'était un des plus mauvais championnats, enfin, une des plus mauvaises ligas depuis bien longtemps que vous n'aviez pas vu.
Bah écoute, moi je pense honnêtement que le Real Madrid a gagné la Liga les deux dernières saisons parce que le niveau n'était pas terrible. Ça n'engage que moi, je demande à personne d'être d'accord avec moi, mais on voit bien que dès qu'il y a un gros Barça, eh ben le Real Madrid m'accache. Hein. Tout ce qu'on voit, c'est que le Real Madrid aujourd'hui, ils sont cinquièmes. Alors qu'ils sont cinquièmes, ils peuvent demain ils peuvent être septièmes. Hein. C'est quand même pas digne du Real. Hein.
C'est sûr, c'est sûr. Bon, ben on finira là-dessus. Je rappelle qu'en début de soirée, Valence avait gagné 2-1 contre l'Espagnol Barcelone. Demain, en Liga, il y aura Séville-Villarreal à 19h. À 17h, il y aura Retafe-Mallorca. Tu m'excuseras pour les prononciations qui sont pas très très bonnes.
Non, je t'en
prie. Recreativo-Huelva contre Osasuna à 17h. Aussi, Valladolid contre la Corogne, Malaga contre Numancia, la Almeria contre Santander et Bilbao contre Riron. Et à 21h, le choc opposera l'Atlético Madrid au Betis Séville, le deuxième choc, on va dire, du week-end. Avec ton petit coup de cœur, ton équipe favorite, on va dire, Marvolo.
Donc voilà, il y a quand même deux beaux matchs, hein, c'est ce que j'avais expliqué la semaine dernière, c'est que le Classico a complètement phagocyté l'intérêt des médias parce que. Mine de rien, quand dans une journée, on se retrouve avec Barça, Real, Séville, Villarreal et Atlético Betis, c'est une assez belle journée. Hein.
C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Juste, je voulais dire un petit mot en Italie, où Naples s'est imposé ce soir 3-0 face à Lecce avec un but de Denis pour te faire plaisir, Marvolo, un Argentin qui a encore marqué ce soir. Naples qui reprend une place sur le podium et qui est désormais troisième avant le gros match demain, évidemment, le Posticipo de la Serie A, de cette 16e journée de Serie A qui opposera la Juve contre le Milan AC. Le gros match demain, donc, à suivre, 1h30 en Serie A. Cet après-midi aussi, il y a le Bologne-Torino, 5-2 pour Bologne, un très très gros score, avec un triplé de Divayo pour les supporters monégas qui sont encore présents avec nous, je le signale. Divayo qui revient, il est à 12 buts, il me semble, en cette Serie A, là, en 16 journées, c'est très 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 très, très bien pour Divayo. On va finir, juste avec Dizzy qui revient de la route de l'Orient et de Rennes-Nantes. Ça casse un peu le truc hein, parce qu'on était là avec Napoli, on était là avec Barça, on était là avec Atlético Madrid et lui, et il vient nous casser le truc avec Rennes-Nantes, un vieux 0-0 des filles. Mais bon, on te laisse une parole, vas-y, si tu veux dire un peu sur ça, Dizzy.
Non, je voulais pas parler du match, je vais pas vous embêter avec ça, c'est un match pourri. Il y avait une belle ambiance, faut le dire. J'invite les auditeurs donc à aller voir les vidéos dans la partie vidéo dans la partie Radio Soccers. Je vais le poster d'ici à peu près une heure ou alors vous verrez ça demain si vous avez envie.
Cassos.
Et pardon.
Cassos. Babos.
Et bientôt une nouvelle chance à suivre de Cassos et Babos. Et pour terminer,
je me... exclusive. Retenez la bière.
Donc,
alors
ça
là,
concerne
là, ça va être relayé par Gazzetta, l'équipe, tout ça.
Ça concernera notre chère Ligue 1, une petite chanson. Et bien, pour finir, bah, je m'excuse officiellement auprès de Marvolo à l'antenne. Voilà, Marvolo, tu comprendras.
Marvolo, oui, nous a quittés. Bon. Il nous a quittés il y a une minute. Donc, bah, je te remercie, Lizzy. Je remercie Shtikeeper qui était avec moi toute la soirée. Dan qui était en off aussi avec moi toute la soirée. Et Ronietto. Tous trois ont été avec moi toute la soirée. Valentin qui nous a rejoint à partir de minuit pendant une heure pour le Classico. Je vous remercie tout le monde. Je vous remercie les auditeurs qui ont été nombreux toute cette soirée. Je remercie ceux qui ont posé des réactions. Et à très bientôt sur Génération Soccer pour plein d'infos foot et encore des bonnes musiques que nous prépare Cassos et Babos. Salut à tous, bonne nuit.
Bye.
Salut.